Des fois, ça m'arrive de pogner des buzz puis juste comme jaser à personne. Là, le
Ah,
monde
c'est
sera,
ça.
qu'est-ce qu'il fait? Ça fait genre 2 heures qu'il parle en live tout seul. Ah oh, ouais, that's me.
T'as-tu du monde qui a suivi ça un peu ou?
Je pense que j'avais genre une vingtaine de personnes qui sont restées tout le long.
Ben
Hey,
voyons donc.
y en a qui partaient puis qui revenaient. Ou... Mais tu sais, c'était comme une vingtaine de personnes, puis j'étais genre, voyons que le monde
Ouais.
écoute ça.
Ouais,
N'importe
ouais,
quoi.
c'est ça, tu sais, c'est genre c'est vraiment léger comme discussion, tu sais, ils peuvent pas être comme intéressant,
Ah, c'est ça. Ben, tu sais,
ouais.
j'explique quand même une couple de bons points, mais mettons que
Ben, c'est
t'es capable
sûr,
de mettons que t'es capable d'avoir 5 points qui sont bons pour toi en 2 heures, t'as quand même attendu longtemps pour avoir chacun des points.
là. Ouais, non, ça c'est certain.
Tu bois quoi, là?
Là, en ce moment, je teste des nouvelles bières en fin de semaine. Ben, des nouvelles bières pour moi-même, là.
Ouais.
Ça, c'est la Backorder.
Nice.
Ça a été brassé à Sainte-Julie. La Brew Shop, brasserie artisanale.
Ok, c'est bien nice.
Fait que, ouais, j'essaye
C'est
ça en
quoi?
fin de
C'est une IPA?
semaine.
C'est une IPA?
Ouais, c'est une IPA, en fait, une double IPA. Non, c'est ça, c'est une IPA.
IPA? Nice.
Double Dry Hop, New England IPA.
Nice.
Moi, je suis ben fort, c'est IPA, je bois quasiment juste ça. En fait,
Ouais,
comme
ouais.
moi, je n'achète, j'achète juste ça. Puis la prochaine en la liste, là, que ça, c'est pas un essai, par exemple, là. Je sais pas si tu as déjà bu celle-là. Castor.
Non, ça me dit rien.
Brasser le Castor, souvent, ils ont une canne noire avec, tu sais, l'image du houblon. Bon, ben, toutes leurs canettes sont toutes noires, puis il y a soit un houblon jaune, un houblon bleu, un houblon vert. Ben, le vert, c'est l'IPA, puis elle est vraiment, vraiment populaire. Puis là, ils ont sorti, je sais pas trop, là, une gamme artisanale ou peu importe, là. C'est un autre New England IPA, puis Australian quelque chose, là, mais elle est
Nice.
vraiment bonne. Celle-là, ça fait un bout, je l'ai, là, depuis comme le début de l'été, là.
Faudrait
Puis,
que je me mette plus sur les
c'est bon,
justement sur les micros là, genre tu sais j'en ai essayé une coupe auparavant. Surtout en
là. Ouais.
voyage, j'aime ça essayer les bières de chaque spot que je
Ah
vais.
ouais,
J'achète tout le
c'est
temps de la
sûr.
bière des micros à toutes les places qu'on va essayer. Mais ici au Québec, tu sais j'en prends souvent quand je vais au resto, mais on dirait que chez nous, j'ai tendance à acheter genre justement tu sais de l'Archibald, de faire de même
Ouais,
là.
mais c'est ça. Non, mais c'est pas mauvais parce que, tu sais, l'Archibald est super bonne. Puis tu peux, comment je peux dire ça? Tu pourras en boire plusieurs, puis ça te tombe pas sur le cœur. Tandis que là,
Ouais.
mes IPA, tu sais, je vais en boire une, deux, peut-être trois, mais genre, dépendant. Tu sais, parce que là, il est quand même de bonne heure, fait que tu devrais m'en clasher un autre après, mais... Je veux dire, c'est pas le genre de bière que. C'est pas une bière de soif, là, tu sais.
Ouais.
Fait que tandis que la Archibald, ben, tu peux te clencher des matantes, des joufflus, là.
Une après
Tu peux en boire
l'autre.
8 dans la journée, là. Puis, tu sais, c'est pas grave parce que ça te donnera pas mal à la tête, t'auras pas mal au cœur. Tu vas peut-être juste être un peu hangover le lendemain. Mais non, c'est ça. Tandis que les IPA de micro, ben, souvent, tu sais, ça donne quand même, j'aime les bières fortes. Fait que, tu sais, si j'en bois trop, ben, je viens que j'ai mal au ventre, j'ai mal au
Ouais, si t'as
cœur,
une
puis le
bonne
lendemain,
soirée,
ben,
t'en
c'est pas
prends une
bon.
ou deux, puis après ça, tu switches sur de la plus légère un peu, là.
Ouais, c'est ça. Ou le contraire, mettons, je start avec des Coors Light ou quelque chose de même, puis après ça, je switch, là.
Tu vois, il y a comme deux façons de penser. Il y a justement le monde qui se claque de la micro, mettons deux, trois canettes de micro, puis qui tombe à la Coors Light. Puis t'as le monde qui déteste la Coors Light comme moi. Fait que je fais juste comme prendre de la bière, comme
Ouais.
l'Archibald, toute la soirée.
Ouais,
Comme
ça,
ça, je sais
je dis Coors
que...
Light, c'est ça qui m'est venu dans la tête, mais nous autres, on boit bien gros aussi de Alexander Keith.
Ouais,
On achète des Slimane. Tu sais, mettons des bières quand on sait qu'on s'en va faire un party, là, ben, on n'achète pas de la bière de micro, là, ben,
les bières les plus
c'est
cheap
quand
des
même cher,
bonnes.
là.
Les cheap des bonnes.
Ouais. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est quand même cher, là, pour vrai. Puis, hey, on a fait un bout, là. Je sais pas vous autres si vous avez eu cette passe-là, là, dans votre jeunesse, là, mais man, j'ai tellement bu de la Pabst dans ma vie,
Mais j'ai
là.
bu de la Pabst Blue Ribbon comme un malade. C'est
Arc.
dégueulasse, là. J'en ai bu. C'est juste que quand t'es jeune. Tu sais, mettons, back in the days, c'était même pas une pièce la
Ouais.
bière. Fait que
Ben
c'était
non, c'est
la seule
ça.
affaire qui était affordable pour nous autres. Fait qu'on buvait juste de la Pabst, on dirait que c'était cool de boire de la Pabst. Mais
Ben,
plus,
il y
là,
avait ça
mettons,
aussi,
genre.
c'était un peu, c'était rock and roll,
Ouais, c'est
là,
ça faisait punk, là, ça faisait bum, là.
tu sais.
Puis là, après ça, quand tu regoutes à ça aujourd'hui, tu fais wesh, mais c'est-tu dégueulasse, là. Hey,
Ouais.
c'est pire que de la Budweiser, là.
Ben, man, c'est un peu comme le vin, là. Genre, on n'entrera pas dans le vin, mais je veux dire, au début, là, tu bois du galop parce que c'est sucré, ça goûte le jus,
Ouais,
mais bois
exact,
du
c'est ça.
galop aujourd'hui, man, t'as le goût de vomir ta vie, là.
Mais surtout que mon vin, je l'aime, genre, extrêmement sec, puis extrêmement,
Ouais.
genre, tu sais, un goût
That's it.
fumé. J'aime ça,
That's
genre, quand ça fait quasiment mal quand tu le bois.
it. Ouais.
C'est ça que j'aime. Fait
Tu es un
que,
petit fan de nature, un peu?
tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire?
Du vin nature?
J'en ai déjà essayé quelques-uns, mais je sais pas, j'en ai pas trouvé encore que je tripais tant que ça. Mais okay, sérieusement, okay. Là, tu sais, j'en ai essayé une coupe, puis on a une affaire avec les pompiers de Sherbrooke, c'est comme un salon des vins, là. Salon vin et fromage, puis c'est comme pour une bonne cause. Puis ouais. Souvent, ils me font essayer justement des vins, puis j'essaie de trouver tous les vins les plus qui goûtent le plus fumé, puis qui sont le plus comme rond en bouche, puis qui sont le plus secs. Je les essaye bon, toutes. Ouais. Puis je finis le temps par en trouver un, je suis comme « Oh my God ». J'en ai trouvé un.
Je t'enverrai des suggestions SAQ là, tu sais, qui se trouvent, mettons, en signature. Là, puis je t'en enverrai deux, trois. Là, c'est
le meilleur là, puis... que j'ai essayé jusqu'à date. Puis il est vraiment comme dur à trouver. Je vais essayer de te le trouver. Je pense que je l'ai quand même rapidement dans mes photos ici. Là. C'était un... Là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Je l'ai ici. C'est un Coteau Rougemont. Ça s'appelle le Grand Coteau. Puis, okay. Il est comme, c'est ça, là. Tu risques pas de le voir, là. Ça marche pas, là. Ouais, en tout cas, voilà. Ça s'appelle le Grand Coteau de Coteau Rougemont. Puis, il est vraiment difficile à trouver, mais c'est genre le meilleur vin rouge que j'ai bu jusqu'à date. Puis, bon, il est pas si cher que ça.
C'est comme... je vais te la demander.
Je pense qu'il est 45$ la bouteille. Tu sais, c'est quand même pas donné, là, comme bouteille de vin.
Ouais, mais non, c'est ça. Les vins nature, c'est rarement en bas de 30$, là.
Ouais, mais il est dur à trouver, mais il est vraiment, vraiment bon. Je te l'enverrai au pire. Moi, je te dis, là, j'en ai bu toute une soirée de temps. Là, puis, le lendemain, j'avais mal à la tête solide, là, mais.
Ah, c'est c'était... pas censé, le vin nature, bon. c'est censé avoid ça un peu.
Ah, en tout cas, j'en ai peut-être bu juste trop, là. Ouais, rendu ça. Là, il y avait rien à éviter, là, c'était juste...
Écoute, si tu mélanges des shots, là, c'est sûr que ça aide pas, là.
Ouais, exact. Ouais, ben, alors ce soir-là, j'étais resté plus tranquille, j'avais peut-être mélangé de la bière. Ah non, j'avais mélangé du fort un peu, c'est vrai. Ouais, ouais, du fort et du vin, là, ça finit jamais bien.
Ouais, non, c'est ça.
Mais ce qui finit jamais bien aussi, c'est de s'acheter un appareil Nikon au début.
On passe ça de même. Pow!
Hey, t'as-tu vu la transition? Comment c'était incroyable?
Incroyable, incroyable.
Non, mais là, dans le fond, pourquoi on fait ça aujourd'hui, c'est qu'on jasait sur Instagram de justement toi qui a comme décidé de vendre tout ton stock Nikon parce que je suis vraiment une plaie puis je t'ai convaincu de switcher. Pourquoi t'as décidé de switcher?
Écoute, ben, premièrement, ça s'était pas passé en criant ciseaux. Là. Ça faisait déjà un bout que ça me trottait dans la tête, mais je m'assumais juste pas. Puis c'est sûr qu'à force de jaser avec toi, ben, c'est pas que ça m'a ouvert les yeux, mais ça m'a juste plus titillé, mettons. J'ai déjà dit dans un de mes lives, mes deux frères sont déjà en Sony depuis toujours, en fait.
Fait qu'en plus, t'as eux autres à côté qui te montrent le stock puis qui te passent le stock probablement, là.
Ouais, c'est déjà arrivé sur une gig ou deux là, que j'ai pris la 7R3 à un de mes frères. Puis, tu sors de la gig, moi j'avais un D750, c'était un tank là, cet appareil photo-là. T'sais, pour vrai, je l'ai aimé, je l'aurais aimé encore. C'est pas tuable, puis ça fait de la belle job. Mais là, tu sors une A7R3 à côté, puis t'es comme, alright.
Puis, on garde en tête que t'avais comme un DSLR en plus. Là. Fait que genre, tu te fais passer comme une mirrorless, vraiment ça coche.
Ouais, vraiment... la A7R3, c'est une bonne, là, pareil. Là.
Tu sais, là, on parle d'il y a quelques années en plus, c'est ça. Fait que là, t'as comme, il te passe une caméra que tu fais comme, waouh, tu sais, juste, tous les avantages sont là. Fait que c'est ta première expérience comme avec le mirrorless. Là.
Ouais, puis la première fois que je l'ai utilisé, c'était un shooting de bouffe. Puis j'avais une, c'est quoi, c'est 105 mm, me semble, la Sony macro.
Tu faisais la STF, là? La macro, cas, c'est... Non, une 90, ouais, la 90 lens... macro, là, ouais.
OK, c'est ça. Bon, mais il m'a prêté sa lens macro, puis je capotais, là, t'sais. Puis en plus, c'était une des premières fois que je faisais du macro. Fait qu'en plus, j'étais émerveillé par l'aspect macro.
Moi, j'ai des macro tubes, là, puis à chaque fois que je les mets, je capote, là. Je suis comme, c'est-tu pas malade, ça? Mais tu sais, c'est bien moins de qualité que la macro que t'as essayé, là. Tu devais capoter, ouais. Là.
Mais ça fait un job, pour vrai, puis tu sais, ça coûte des peanuts sur Amazon, là, fait que...
Pour les fois que je les utilise, là. Moi, la lens qui me tente le plus, c'est la... Je sais pas si t'as vu ça, là, la AWA.
Oui, j'ai vu ça, le shotgun. Même.
Ben, c'est comme une espèce de gros tube, là. C'est une F14 avec une lumière au bout, mais ça fait des shots complètement hallucinantes, là. Tu mets ça sur un slider, là, puis t'as des shots que personne n'est capable d'avoir. Tu sais, mettons, tu mets justement du café, tu passes à travers des grains de café, puis on dirait que t'es une fourmi dans des grains de café, là. C'est malade.
Ouais. Ah non, c'est complètement insane. Je l'ai vu, tu sais, tantôt... Plus tôt aujourd'hui, je checkais les LAN, justement. Là, je me suis fait un espèce de... Pas un budget, mais tu sais, j'ai regardé qu'est-ce que j'ai, combien je le vends, combien que ça me rapporte versus à l'équivalent. Puis là, ben, c'est ça, en fouillant les LAN, je suis tombé là-dessus. J'étais comme, mais c'est quoi cette affaire-là? Là, je me suis regardé un peu. J'étais comme, oh shit.
Ouais, fait pour revenir à pourquoi t'as décidé de changer de Nikon à Sony, parce que là, on a comme divergé. Qu'est-ce qui t'a fait? C'est quoi qui t'a fait, genre, faire, ok, là, c'est assez.
Ben, parce que dans les prochaines lenses que je voudrais me procurer, quand même prochainement, c'est une lens pour faire du wildlife, pour pouvoir aller plus près de mes sujets sans interagir dans leur environnement naturel, tu sais. Puis je me suis rendu compte que autant que j'aime ma Z7, parce qu'elle donne un excellent rendu anyway, il n'y a juste pas de solution que de prendre les lentilles F-mount des SLR. Fait que
pour ceux qui savent pas, mettons, c'est que Nikon, ils ont du F-mount qui est comme le mount qui existe depuis genre 35 ans. Puis il y a le nouveau Z-mount qui est pour les nouvelles mirrorless. Sauf que mettre une F-mount sur une caméra mirrorless, c'est comme prendre une Mustang V6, genre. C'est comme... ça bien fonctionne, vu. Mais t'as pas le plein potentiel de la cam que tu payes. On se dit tu payes au moins 4-5 000 $ en plus. Hein?
Ouais, ben, peut-être que prendre une Mustang V6, c'est poussé. Je dirais peut-être plus une Mustang V8, mais automatique.
Ok, ouais, ok, c'est bon, j'aime bien la comparaison. T'as une V8,
parce que, tu sais, ça reste quand même des bons glaces, là, tu sais.
Ouais, non, ok, c'est bon, j'aime bien ton analogie, c'est bon. T'as pas le plein potentiel, tu peux pas monter le rev jusqu'où tu veux. T'as le maudit, t'as le pad shift qui t'empêche de faire ce que tu veux avec le char.
Ouais, c'est ça.
Puis...
Non, mais fait que c'est ça. Bref, j'ai commencé à regarder les autres appareils. T'sais, j'étais comme, je vais pas retourner en DSLR. Pas parce que c'est mauvais, c'est pas ça le point. T'sais, la D850 est dans la même gamme de prix, puis c'est un autre tank, puis c'est sans doute une des meilleures caméras sur le marché en ce moment, overall. Mais, tu sais, c'est bulky, c'est pesant, tu sais, on voyage beaucoup, c'est pas le même affaire, c'est pas le même lifestyle que de, si je reste au Canada, exemple, puis d'avoir une voiture que je traîne tout mon stock dedans, puis de juste avoir le transporter dans mon sac quand je vais sortir dehors, tu sais. Mm-hmm. Là, on parle de voyager, le format compact, le poids de ton bagage, évidemment, tu traînes partout sur ton dos, nous autres, on voyage vraiment backpack, tu sais, on va camper, on va faire un peu de campervan aussi, mais il reste que quand on sort le matin de notre campervan, on passe la journée avec le sac sur le dos, là, tu sais.
Ouais, ça a l'air niaiseux, mais pour du monde qui voyage pas beaucoup avec du stock de vidéo ou du stock photo, mettons, tu voyages juste avec une caméra, aussitôt que t'as 3-4 lens à traîner, ça change la game, là. Ton body, la pesanteur de ton body fait vraiment une méchante grosse différence. Aussitôt que t'as un drone, des lancers, des filtres, un GorillaPod, un tripod... des cartes
de plus, tes batteries à traîner. C'est les crossins qui s'ajoutent, là.
Ouais, c'est ça. Tu sais, aussitôt que tu te mets à avoir gros du stock, il y a des batteries pour toutes tes affaires. Y a toutes les surplus que tu traînes, c'est tout ce qui prend de la place. Puis à un moment donné, ton body, il fait comme le 500 grammes de différence, tu fais comme, ah, ça fait mal.
C'est ça. 500 grammes, ben, c'est peut-être deux batteries que tu vas traîner de plus, puis
c'est ça, exact.
Non, fait que c'est ça. Fait qu'en gros, là, puis tu sais, Sony, ben, c'est... J'aurais pu regarder aussi des Canon, j'aurais pu regarder des Fuji, mais tu sais, Sony, c'est ce qui m'entoure le plus, c'est ce qui est hot en ce moment. Je sais que les lentilles sont ultra, ultra sharp. Je regarde des photos des fois, là. Écoute, il y a quelqu'un qui m'a envoyé récemment une photo de 61 mégapixels. j'ai zoomé dans son portrait, puis écoute, les détails, mon gars, là, pour vrai, c'est impressionnant.
Je t'ai dit, la même photo que tu me parles, là, je la prenais, mettons, là, genre... Pis... J'ai zoomé jusqu'au point que, mettons, on me voit de loin là, sur une passerelle.
Ouais, pour rappeler aux gens que c'est toi sur la photo.
Ouais, c'est exact, c'est ça. Puis, j'étais peut-être quoi, mettons, moi, sur la photo, je fais peut-être 30% de la photo, mettons, même pas, là, 20%. Ouais. Puis, j'ai zoomé jusqu'à me faire un portrait de épaule à tête. Puis, ça avait encore du bon sens. J'étais comme,
ben oui.
Voyons donc, Chris, c'est n'importe quoi, là. Je peux tromper à l'infini fou. Là-dessus, là.
C'est fou, puis un autre truc que je struggle, mais pour vrai, je n'ai jamais vraiment parlé à personne parce que j'ai peur de me faire juger. Non, mais pour vrai, c'est que vu que moi, j'ai pas de lens Z-mount, je pense que c'est un lack de sharpness que j'ai dans mes trucs parce que autant avec ma 24-70 que ma 70-300, quand que je rentre dans ma photo, dans Photoshop, puis je zoome dedans, quand je suis rendu à 200% ou 100, même 100%, je vois qu'il manque des détails. Tu sais, toi, la photo qu'on parle, on était sûrement à 800%, 1000%, puis on voit encore les détails. Là.
Mais tu sais, c'est que le monde, il réalise pas que quand tu adaptes des lens, quand tu prends un adapteur puis tu adaptes une lens, le monde sont comme « Ouais, mais ça marche de la même manière, ça marche pareil, c'est aussi efficace, mais c'est aussi efficace sur l'autofocus quand c'est la même compagnie qui le fait, mais tu n'iras jamais chercher 100%. » Tu sais, c'est pas pour rien qu'ils refont des lens pour le Zimant, là, tu sais. Il y a quelque chose que tu n'auras pas, puis c'est justement le sharpness. Ils savent. Non, c'est ça, ils savent, ils sont au courant, puis ils ont monté un nouveau monde complètement pour ça. Puis tu sais, quand tu t'achètes une caméra à 5 000-6 000 $, tu veux avoir le plein potentiel de ta caméra, puis pas juste absolument 80% de ta caméra, tu sais. Fait...
Non. Parce que je te donne un autre exemple. Hier, j'avais un shooting corpo dans une business de marketing. Puis c'était du lifestyle, c'était aussi du portrait un peu. Fait que j'ai fait mon lifestyle avec ma 24-70 2.8. Jusque-là, tout va bien. Puis quand que je tombais en mode portrait, je possède une 50 mm 1.4, que pour vrai, là, c'est vraiment, vraiment ça coche comme lens. Puis quand j'avais mon D750, je capotais. Je ne jurais que par cette lens aussitôt que je faisais du portrait. Puis hier, je l'ai mis sur mon FTZ, puis ça allait bien. Là, shooting, moi, je regardais mes photos dans mon écran, puis tout allait bien. Puis quand je suis rendu en pause, j'ai regardé ma job, mettons, en arrivant à la maison. J'étais comme, man, j'ai quand même un lack de sharpness. T'sais, la photo est belle, là. T'sais, mettons, monsieur, madame, tout le monde va regarder. Ah, la photo est écœurante. Mais je le sais, moi, quand je rentre dans photo, j'ai pas le edge qu'il faut. T'sais.
Mm-hmm.
Puis ça me fatigue. Puis je me suis dit, man, c'est sûr que Sony, j'aurais pas ce problème-là. Là.
Puis pour un gars qui fait des prints en plus, ça change ben toute oui. la game. Là, parce que tu sais, on s'entend que tu fais des prints, puis t'en fais pas mal. Puis tu sais, live, ouais. on enregistre, puis je vois que t'as comme ton gros print de Lyon derrière toi. Qui est ça s'appelle genre... Combo,
on le salue.
Qui est quoi? Qui est genre en, mettons, 4 pieds par 2 pieds, je sais pas. Ça, 5 par 3.
C'est 40 par 60.
Ok, ben tu sais.
Non, parce que c'est pas 5 pieds. Je m'en rappelle plus. Sinon, c'est 36-40, quelque chose de même.
Ok, en tout cas, il est gros en
ouais.
tabarde.
Oh, il est très grand.
Puis, tu sais, mettons, c'est ça. Si tu prends une photo de ce genre-là, puis que tu la grossis, puis tu fais comme Chris, il manque de sharpness, ben. Hey, jusqu'à pas près, là. Sérieusement, là.
Ouais, ben c'est ça. Celle-là, j'avais une 70-300. Puis j'ai été chanceux parce que la luminosité extérieure, la lumière dehors, était vraiment bonne. Fait que j'ai pas eu à booster d'ISO.
Mm-hmm.
J'ai genre ISO 100. Ma vitesse était super haute. Là. Je pourrais pas dire par cœur c'était quoi. Mais c'est un coup de luck, là. Parce que tu sais, ma 70-300, c'est une 4.5-5.6. Puis j'étais sûrement à 6.5 ou 7 mm-hmm. ou 8 à cette photo-là, je sais pas. Fait que c'était vraiment un coup de luck parce que ma luminosité était belle. Fait que mon sharpness fait que c'était bon parce que, je sais pas si tu sais, mais quand tu utilises un télézoom, si tu es à, je sais pas moi, F10, ben t'es pas censé, techniquement, une loi non écrite, c'est que tu peux pas être en bas de 1 sur 1000.
Ouais, parce que sinon,
tu vas perdre du sharpness, c'est ça, tu sais. Fait que en essayant de respecter cette loi-là, ben j'étais comme ok, bon, ben faut que je manage d'avoir de quoi de sharp, tu sais.
Parce que pour expliquer sorti. Au monde, c'est juste que si jamais t'as une 100-400, t'es à 400 mm, si tu te ouais. mets à 1 sur 100 de shutter speed, 1 sur 200 de shutter speed, chaque micro-mouvement est amplifié plus que tu zoomes. Fait que mettons à 16 okay. mm, si tu bouges un petit peu, tu verras jamais la différence. Tu sais, avec le IBIS et tout ça en plus, ça paraît tellement mm-hmm. moins, mais à 16 mm, tu pourras même donner un mini coup vers la gauche. Ça paraîtra pas tant que ça, mais avec une 400 mm, si tu bouges un minimum, puis ton shutter speed n'est pas assez élevé, ça va être flou à mort. Là. Je veux dire, chaque
micro-mouvement est amplifié. À moins d'utiliser un tripod, mais ça, c'est... Là, ouais, on parle exact. De NL, de, genre ouais. de tenir en main, shooter, puis là, ben évidemment, au zoo de Granby,
ouais,
on pas ton trépied.
Exactement, on s'attend que dans le meilleur des mondes, tu as ton trépied, mais c'est jamais, à peu près jamais. Là.
Ouais, non, c'est ça. Fait que, c'est ça, sachant que c'est exponentiel, ben, tu veux un maximum de sharpness, puis je savais qu'avec la lens que j'avais, j'aurais eu de la misère à l'obtenir, mais regarde, ça a bien à donner. Puis là, mettons, avant de penser à changer à Sony, j'ai regardé aussi les lentilles Nikon qui sont disponibles dans le F-Mount, mais je me suis dit, bah, peut-être je vais me contenter, tu sais. Je suis des gars comme... Eric Nature, je sais pas si tu le suis, mais son travail est juste comme hallucinant. Lui, il possède une 300 mm 2.8,
mm-hmm.
complètement dingue, cette photo. Je suis comme, comment il fait pour avoir ce niveau de sharpness-là? Ça me détruit. Lui, c'est ça, il a une 850, puis sa 300 2.8. C'est malade, malade, malade. Fait que là, je dis, avec une Z7, je vais être capable d'aller chercher ça, mais j'ai peur, là, tu sais, à 300 mm 2.8, là, c'est un gros investissement, là, quand tu penses que t'as pas le edge de sharpness que tu vas avoir, là, tu sais.
Ouais, puis quand t'adaptes des lenses, puis tu sais que ces lenses-là vont tomber comme un peu, pas useless, mais ils vont tomber, genre, un peu derrière tout le monde dans pas long. Tu veux pas investir autant d'argent dans du glace qui est comme 30, qui a 10 ans, qui a 15 ans, qui a... Ça a, comme, ça a juste pas de sens. Hein. T'es rendu là. Si Nikon t'a dit, garde, nous autres, on n'a pas l'offre que tu veux pour ta caméra à 5000$. On n'a pas l'offre de lentille que tu veux. Fait qu'achète du vieux glace puis adapte-le. Moi, je trouve que c'est comme ajouter l'insulte à l'injure un peu. Là. Ben, je suis comme, même, tu sais, genre, tu me demandes de dépenser 10-12 000 dans une lentille qui va être quasiment, tu sais, useless dans quelques années. Là, je veux dire, rendu là. Fait que, ouais, je trouve ça un peu ridicule.
C'est sûr, ça garde tout le temps sa valeur, sauf qu'en bout de ligne, comme tu dis, si tu veux avoir le produit qui fit,
mais
qu'est-ce que t'as?
Ça là, garde sa valeur tant et aussi longtemps que t'as pas un nouveau membre qui prend d'assaut l'ancien, ce qui est comme en train d'arriver en ce moment. T'sais, je veux dire, si Nikon, ils disent, regardez, t'sais, dans quelques années ou dans 2-3 ans, comme Sony par exemple, qui ont changé au mirrorless et qui ont complètement tué le Alpha Mount, parce qu'avant le E-Mount, il y avait le Alpha Mount.
Ouais.
Puis tu sais, ils l'ont complètement tué parce qu'à un moment donné, ça n'avait plus de sens, puis ça n'avait plus d'intérêt business-wise de garder cette mante-là. Tu sais, je veux dire, il n'y a plus personne qui avait des caméras. Le E-Mount prenait d'assaut le marché. Mais on s'entend que s'ils ont juste tué le E-Mount, ce que Canon et Nikon tardent à faire un peu parce qu'il y a beaucoup de entry-level DSLRs qui se vendent encore énormément. Sauf qu'à un moment donné, ça ne va plus faire de sens business-wise de garder des lentilles à 12, 15 000 quand tous les photographes pros ont changé vers du mirrorless. Mais une fois que ça s'est arrivé, ta lens à 12 000, 13 000, 15 000 que t'as acheté, vaut plus rien. Pas vaut plus rien, mais vaut presque plus rien parce qu'il n'y a plus personne qui est comme sur cette marque-là, sauf des entry-level DSLRs qui achèteront jamais de lentilles de cette valeur-là. Là,
c'est ce que je me demande, si ça va pas faire un peu comme les appareils argentiques.
Mm-hmm.
Tu sais, quand le DSLR est arrivé, là, le monde est viré sur le top, là, tout le monde changeait, il n'y a plus personne qui voulait ces appareils-là avec des films, ces affaires-là, hey, voyons donc. Puis là, c'est en train de revenir petit peu par petit peu. Peut-être que le
glace de DSLR va revenir, je sais pas. J'ai moins l'impression parce que c'est pas deux technologies complètement différentes comme l'argentique puis le DSLR. Tu sais, l'argentique, c'est des films, DSLR, c'est digital, tandis que mirrorless et DSLR, ça reste deux appareils digitales. Juste que c'est une technologie, tu sais, c'est juste une technologie différente qui offre plus de possibilités, mettons, dans mirrorless pour des plus petits bodies, puis un meilleur autofocus. Puis... Mais la photo, au final, change pas tant que ça. Tu sais, c'est pas deux technologies différentes. Tandis que l'argentique, c'est plus comme un feel. C'est plus quand tu prends une photo argentique, t'as comme, tu retrouves ce retro feel-là. Tandis que changer d'un mirrorless à un DSLR, on dirait que tu vois pas tant... Tu sais, si t'as vraiment deux top-of-the-line bodies, comme un 1DX Mark III puis un Canon EOS R5, tu verras pas la différence dans les photos parce que c'est le même processeur, c'est le même sensor. Fait que techniquement, tu vois pas la différence si tu les exposes pareil. Mais il y a pas un feel différent avec le DSLR que le mirrorless, mais ça va juste tout changer vers le mirrorless parce que c'est un économiquement plus avantageux, plus petit, meilleur sensor, plus gros mount. Tous les avantages sont là, surtout l'autofocus qui est mieux. Il n'y a pas de miroir qui flippe, fait que tout est mieux là-dedans.
Ouais,
là. Fait que j'ai pas l'impression que ça va faire un retro return comme l'argentique à cause de ça, vu que c'est pas assez deux technologies différentes. Puis il n'y a pas un assez gros retro feel comme au DSLR. Là. Je pense que c'est plus le monde va se rendre compte que wow, les DSLR sont bulky. Oui, ils sont plus tough un peu, mais tu sais encore là plus tough. T'sais, j'ai échappé ma caméra combien de fois à terre puis elle est pas pétée. Fait que tu sais, je veux dire, il y a comme un certain niveau que le monde veut quelque chose de durable, mais là t'es comme ouais, mais c'est quoi que tu vas faire avec qui va être si dangereux que ça? Tu vas-tu vraiment l'amener comme en Alaska ou genre sur le Mont Everest? Ok, tu l'amènes sur le Mont Everest, fine. Genre, achète un 1DX Mark III, là. Mais ouais, à part ça, je pense pas que ça soit si worth que ça de penser genre je vais échapper ma caméra au moins 100 fois à terre puis je vais l'amener proche de l'eau tout le temps. T'sais.
Ouais, j'ai mon frère, mon plus jeune frère, qui a lui, je pense, c'est, sauf erreur, c'est une 6500 qu'il y a. Puis il m'a juste envoyé un message texte un certain matin, puis sa caméra. Eh ben, tu sais où est-ce qu'on change notre vitesse,
l'aperture?
En haut à droite, là. C'était juste, juste défoncé, là.
Ah ouais? Ok.
Là, il était comme... J'ai envie de mourir. Là. Qu'est-ce que tu vas faire? Que, je sais pas. Nanana. Puis là, sa lens, elle avait éclaté aussi, mais pas. Le glace n'a jamais cassé. la lens a juste cassé du mount.
Ok.
Puis le mount avait cassé aussi, genre c'est les rivets, pas les rivets, ouais, mais ouais. Les...
Le mount en tant que tel en métal qui a
ouais,
arraché.
Il avait cassé, fait qu'il a réussi à genre l'enlever, le dévisser de là, puis le coller sur la caméra. En tout cas, il a changé les bolts après.
Okay.
Puis avec un tournevis, il a réussi à comme torquer le métal de la caméra pour que son shutter button il puisse fonctionner. Ouais, ouais. Fait que là, il vit avec. Là,
fait qu'elle marche encore, là.
T'sais, ouais, elle marche encore, mais il a le cœur brisé. Là.
Ouais, non, c'est ça, je comprends. Elle est pas comme neuf, mais à
son cœur est plus brisé que la caméra, peut-être.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en tout cas, c'est le même genre de personnes qui vont acheter des DSLR, j'ai l'impression que c'est le monde qui va acheter un case avec aussi. Là. Fait que tu sais, je suis comme, tu sais, je les ai rendus là.
Ouais, y a ça.
Ça a comme pas de sens. Là.
Ouais, ben c'est ça. D'ailleurs, il fait beaucoup de vidéos, là, fait que c'était un hasard là, qu'il n'y avait pas son mount après, puis que ça a tombé direct sur la caméra. Là. Il, tout le
temps, il y a des cages tout qui se vendent. Comme moi, sur ma 7S3, j'ai une cage, surtout pour comme la fonctionnalité de la patente, là. Comme acheter un mic, acheter un handle, acheter des affaires, mais tu sais, quelqu'un qui a peur peut juste racheter une cage puis c'est réglé. Là. Tu l'échappes à terre, c'est la cage qui mange tout le coup. Là,
ouais. Pas ta toi, tu regrettes pas ton move de cet appareil-là?
Zéro pinball, sérieusement. Là, c'est... Zéro, ouais. Pour vrai, le monde, des fois, sont comme surpris parce que c'est une caméra 12 mégapixels puis elle coûte une fortune. Fait que c'est un peu ridicule des fois de dire genre, hey, j'ai acheté une caméra, elle m'a coûté 6 000$ puis elle est 12 mégapixels. Puis le monde sont comme, quoi? Mon iPhone, il est 12 mégapixels, mais t'es comme, ouais, mais there's more to it than just that.
Ouais, c'est ça.
Puis ce que le monde ne savent pas, généralement, c'est que, mettons chez Sony, mettons que j'explique rapidement, il y a 3 caméras dans le Alpha lineup, genre, qui est le pas le Pro lineup, mais les full frame lineup. Il y a le A7 III, qui est le entry level, qui est l'appareil d'entrée de gamme dans le full frame lineup. Dans le fond, la différence, là, on rentre dans les détails un peu, mais c'est qu'il y a 2 lineups, il y a le APS-C lineup, puis il y a le full frame lineup. Le APS-C, c'est des plus petits sensors, donc caméra moins chère, beaucoup plus petite, puis justement, les lenses sont toutes moins chères aussi, là. C'est des lenses APS-C, fait que c'est beaucoup moins cher. Sauf qu'il y a beaucoup moins de lumière qui rentre dans le sensor, puis les photos, ils n'ont pas le feel d'un full frame, c'est pas la même qualité. Puis c'est ça, mettons que tu as une lens F4 ou une lens F2.8 sur un APS-C, ben c'est une F4 en vrai, tu sais. Ta 2.8 devient comme F4 à cause du manque de lumière, ta F4 devient comme F6.3 à cause du manque de lumière, fait que nécessairement, c'est comme moins de qualité, mais beaucoup moins cher. Après ça, on tombe dans le full frame, que là, c'est des full frame sensors qu'on appelle, donc c'est vraiment un sensor de 35 mm. Ça, c'est là que les lentilles coûtent une fortune, parce que nécessairement, beaucoup plus de glace, beaucoup plus de stock. fait que là, on parle justement, mettons, de la même lens, mettons, la 1650, la 1650 de Sony dans le APS-C, je pense qu'elle est comme 2500. C'est une 1650, fait que ça a vraiment comme une grosse versatilité. Si je prends le même exemple, c'est une 2.8 dans le APS-C. Puis si je prends le même exemple, ma 1635 2.8 sur mon Sony, elle coûte quasiment 4 000$ avec les taxes. Puis c'est une 1635. Fait que tu sais, t'es comme, mais je perds du reach, la lens grossit deux fois plus, puis elle coûte le double. Fait que des fois, ça fait comme pas de sens. Mais c'est ça, du full frame, c'est que t'as la meilleure qualité, puis t'as plus de lumière qui rentre dedans. Fait que nécessairement, ta 2.8 sur un APS-C qui est F4, ben sur ton full frame, c'est vraiment une 2.8. Fait que tu as beaucoup de lumière qui rentre dedans. Fait que c'est ça, il y a le A7 III qui est l'entrée de gamme dans le full frame sensor. Tu as le A7 R qui est le R, c'est pour résolution. Dans le fond, c'est pour ça, la A7 R4 qui est la A7 R4 en ce moment, qui est la plus grosse offre dans la résolution. C'est elle qui offre 61 mégapixels. Fait que c'est ça, pour ça qu'ils appellent ça le R. C'est que ça, elle offre des sensors qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de résolution. Fait que ça permet de cropper énormément, comme justement quelqu'un qui fait du wildlife ou du sport photography. Puis après ça, tu as le line-up des S. Le S, c'est pour sensitivity. Fait que dans le fond, c'est des sensors qui sont beaucoup moins hauts en mégapixels. Mais quelque chose que le monde ne savent pas, c'est que moins tu as de mégapixels, meilleure ta caméra, elle va être en low light. Fait que moins il y a de lumière, plus que moins tu as de mégapixels, mais moins il y a de lumière, mieux c'est. Parce que si tu as 61 mégapixels, tes pixels sont sur le même sensor, sont sur la même grosseur de sensor que celle de la A7S. Fait que chaque pixel peut prendre moins de lumière dedans. C'est un peu, c'est vraiment comme vulgarisé.
Ben, c'est technique, mais
c'est vulgarisé, mais c'est ça le principe. Fait que quand tu as une caméra 12 mégapixels, chaque pixel rentre énormément plus de lumière. Il y a beaucoup plus de lumière qui rentre dedans. Donc, ça permet d'aller justement à comme... Tu sais, je comparais, là, mais tu sais, mon chum qui a une A7R, si on allait les deux à 12 800 ISO, c'est comme un world of difference. Là. Lui, c'est rempli de noise, puis moi, c'est clean. T'sais, fait que c'est ça, moi, pour mon utilisation personnelle, vu que je suis un vidéaste plus, Puis que je préfère avoir moins de résolution, mais plus de versatilité dans ce que je peux faire avec la cam. La 7S, c'était juste comme, c'est un no-brainer. Tu sais, je fais des photos de Milky Way, je fais des photos gros le soir, j'aime ça. Je fais gros du vidéo, fait que c'était comme un no-brainer d'aller vers la S. Tandis que quelqu'un comme toi qui fait du wildlife ou qui fait du landscape, c'est un no-brainer d'aller vers la R. Là. La plupart du temps, tu shooteras pas en low light, ou si tu shootes en low light, tu vas être sur un tripod. Exact. Fait que c'est un no-brainer d'avoir la R qui t'offre vraiment plus de possibilités de cropper. Là. Fait que c'est un peu ça le line-up qu'il y a chez Sony. Puis la Basic, la 7.3, en ce moment, qui l'offre comme entry-level, c'est comme un mix des deux. Elle est 24 mégapixels, fait qu'elle est comme bonne à low light, mais pas autant que la A7S, mais elle est comme dans une espèce d'entre-deux nice.
C'est pas un coup d'épée dans l'eau, ça, tu penses?
La A7.3?
Ouais.
Qu'est-ce que tu veux dire par un coup d'épée dans l'eau?
Ben, écoute, comme tu dis, c'est pas bon dans tout, c'est juste correct dans tout. T'sais.
Ben, c'est le but d'un entry level, au fait. Là. C'est quand tu sais pas encore ce que tu veux faire avec ta cam, comme tu n'es pas encore spécialisé, soit dans la résolution, dans la sensibilité, ben, tu veux comme tout essayer un peu, puis c'est comme un best of both worlds, mais genre sans spécialité. Fait que,
ouais,
okay, d'une certaine façon, ça te permet de découvrir ce que tu aimes le plus, mais en ayant quelque chose qui est vraiment bon, qui est bon dans tout, mais perfectionniste dans rien. Fait que ça permet ça. C'est sûr qu'à un moment donné, si tu dis « moi, je suis vraiment vidéaste », ben la A7-3, elle offre des bonnes capabilities, mais si tu veux du 10-bit 422, ben achète pas ça, il l'a pas, tu sais. Va vraiment tout de suite vers une caméra de vidéaste. Ou si comme toi, tu sais que moi, je veux 61 mégapixels, je veux minimum 40 mégapixels, ben achète pas l'entry level, tu sais, il l'a pas.
Fait que, non, c'est ça.
Si tu sais déjà ce que tu veux, prends le modèle qui a exactement ce que tu veux en offre. Si jamais tu sais pas ce que tu veux ou tu commences dans le full frame, ben là, c'est là que le entry level, il est appealing, il est le fun, t'es comme « ah, je vais tout essayer puis je verrai ce que j'aime le plus. » Ou ça te permet d'aller voir les deux. Là.
Ouais, c'est ça. Je vais déroger du sujet un petit peu, mais je sais pas si t'as vu la nouvelle FX6.
Ouais, ouais, je l'ai vu.
Holy schmoots.
Ouais, c'est probablement dans ma prochaine année là, que je vais l'acheter.
Ouais.
Ouais, parce que pour vrai...
Éteins-en des feux.
Ouais, pour vrai, tu sais, live, je run avec une A7S3, c'est comme, c'est incroyable, là, c'est vraiment une méchante bonne cam. Mais mon B-cam, en fait, c'est ma A7S3.
Ouais.
Puis le color matching entre les deux, il est dégueulasse. Tu matches les couleurs des deux, c'est vraiment difficile parce que les couleurs ont énormément changé entre la A7S3 et la A7S3. Puis c'est comme difficile parce que l'autre est 8-bit, puis là, la nouvelle est 10-bit, je shoot en S-Log, c'est la nouvelle, puis la vieille, je peux pas shooter en S-Log parce que aussitôt que tu modifies l'image, vu que c'est du 8-bit, ça détruit complètement. Fait que je peux pas shooter le même color profile. C'est sûr que je veux shooter en S-Log, c'est S3 parce que c'est ça qui m'offre le plus de dynamic range, c'est ça qui m'offre la meilleure image, mais je peux pas shooter le même color profile, c'est deux, fait que ça, c'est juste de la merde. Là. Fait que c'est pour ça que la FX6 m'intéresse énormément. J'aime mieux, je commence à vouloir avoir un body plus professionnel, un peu plus lourd pour faire du handheld un peu plus.
Caméra vidéo. Là.
Ben tu sais, ce que le monde, veut tout comme avoir plus miniature. Mais ce que le monde ne comprenne pas, c'est qu'en vidéo, la plupart du temps, c'est mieux d'avoir de quoi de plus gros et plus lourd. Parce que quand tu fais du handheld, c'est plus stable.
La stabilité est plus au rendez-vous.
Ben oui, c'est beaucoup plus stable. Puis le look and feel d'une caméra de cinéma est différent aussi. Tu sais, on va avoir plus un look naturel, plus film, plus genre dans ce genre-là. Tandis qu'un mirrorless, on va avoir un look plus digital un petit peu. Alors, il y a comme une mini-différence, mais ça paraît à l'œil. Puis on voit si c'est une mirrorless ou si c'est une caméra de cinéma qui le fait. Fait que c'est sûr que le double du prix, c'est quand même beaucoup demandé. Là. Puis il y a beaucoup qui vient au color grading après. Mais il y a des différences. Puis il y a le electronic, les VND en dedans de la cam. Là. Ça, c'est débile. Là. Je veux dire, c'est comme... d'habitude, faut-tu mettre un variable ND devant ta cam. Un filtre variable ND pour pouvoir jouer avec la lumière qui rentre dans ta cam. Sauf que dans la
FX6... pour Neutral Density.
Neutral Density Filter. Fait qu'en fait, c'est un filtre qui va devant la lens, sauf que dans la FX6, il est dans la caméra.
Arrête
c'est le plus gros... Mais c'est le plus gros avantage d'aller vers une FX6. C'est les Electronic ND Filter dedans. C'est juste... Wow. C'est un monde à part, là. Tu peux vraiment changer directement. Puis il y a un qui est automatique, en fait, qui appelle... Fait que le système, comment il fonctionne, c'est dès que la lumière change, il y a juste automatiquement le ND pour que la lumière reste bonne. Fait que si tu passes, mettons, d'une salle super sombre à l'intérieur, t'es à ISO 100 en dedans, tu sors dehors dans le gros soleil, la caméra applique automatiquement ton ND par-dessus pour que ça soit genre bien ajusté dehors. Fait que tu peux faire des shots intérieur-extérieur sans avoir à tourner ton ND puis fucker ta shot ou à couper ta shot parce que tu t'en vas dehors. Ouais. Et c'est malade, je veux dire. Ça offre plein de possibilités. Puis peu importe dans quoi tu shoots, si tu tournes de bord puis il y a plus de soleil d'un bord, ça s'ajuste tout seul. Et c'est malade mental. Là. Je veux dire, ça, c'est ça l'avantage d'aller voir une FX6, mais elle coûte le double. Fait que
ça fait penser. Ouais, c'est ça. On va en faire des contrats entre temps.
Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, moi, je vois pas acheter du gear, je vois pas ça comme je vois ça comme un investissement pour elle. Tu es rendu là.
Ça, c'est la façon de faire accepter ça à nos blondes.
Exact, c'est ça, exact. Ben, moi, j'ai pas de blonde, fait que je peux dépenser autant que je veux. Il y a personne pour me dire. Il y a juste ma mère qui est là pour me dire, voyons, tu dépenses bien gros. Je suis comme, ouais, mais. Je suis en train de monter quelque chose là, d'intéressant.
Ouais, c'est ça. C'est gros ce qui s'en vient, maman. C'est gros.
Ouais, c'est ça.
Hey, écoute, on va retourner à nos moutons un petit peu. Là, concernant la 7R4, là, c'est beau tout ça, là, 61 mégapixels et tout et tout. Mais là, ça me prend des lens pour matcher ça.
Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, chez Nikon,
moi, j'étais habitué de
juste clarifier un point. C'est... Chez Nikon, il n'y a pas de big zoom. Fait qu'en ce moment, dans le Z-Mount que tu cherchais, il n'y a pas de 100-400, il n'y a pas de 200-600.
Non, on s'arrête à 70-200, pas... peut-être site.
Fait qu'après 70-200, tu es obligé d'aller acheter du vieux glace puis de l'adapter. Il n'y a rien de plus.
C'est ça le point, là, tu sais.
Quand on jasait, ça avait l'air d'être un gros point pour toi qui est fait comme, ouais. Parce que là, ils sortent en 2022. c'est ça qui est drôle, c'est que là, mettons, tout le monde qui a... Tout le monde qui a une caméra, un Z6, Z7 II, si tu veux une 100-400, soit que tu te crosses, soit que tu achètes une vieille lens, ou tu attends 2022.
Ouais, mais là, attends, je vais juste prendre une petite défense. Les vieilles lens, c'est quand même dans les meilleures lens qui existent sur la planète.
Oui,
là.
Oui, absolument. Mais je veux dire, faut t'investir mais dans du vieux glace.
C'est ça, exactement. Cela dit, j'ai magasiné un petit peu. Moi, personnellement, ma go-to lens en ce moment, c'est pas une longue lens, évidemment. Mm-hmm. C'est une 24-70 2.8. Puis j'imagine que je devrais prendre la même affaire, peut-être, là, pour ma 7R4. Là.
C'est le go-to lens, comme tu dis là. C'est la meilleure lens tout allée. Moi, personnellement, je l'ai même pas. Parce que je sais que 80% de mes shots se font à 16-35. J'ai ma 70-200 après ça quand je veux aller faire du long range un peu plus. Puis j'ai ma 85mm 1.8 pour quand je veux faire du B-roll un peu plus comme plus de qualité un petit peu. Là.
Mais ta 16-35, elle va pas te limiter un peu? C'est vraiment wide? Ton sujet va être petit?
Oui, mais à 35mm, moi j'aime bien le focal length de 35. Je trouve que c'est comme un peu comme... C'est le plus beau focal length, je trouve, avec le 50mm. Mais le 35, il offre un peu le même feel, mais on voit un peu plus du décor. Puis moi, j'aime beaucoup ça, voir le décor. Focuser sur des visages, je vais prendre ma 85 rendu-là. Mm-hmm. Je vais avoir un meilleur rendu avec ma 85. C'est plus avantageux pour les faces, c'est plus avantageux pour le monde. Fait que si je veux faire du B-roll de quelqu'un, je vais prendre ma 85. Puis si je veux faire des shots d'endroit, si je veux faire des shots de ce qui se passe dans l'endroit, ben le 16 puis le 35 vont être parfaits pour ça. Fait que je te dirais 80% de mes shots, je les fais avec la 16-35. Un 10% que je fais à 85. Puis quand j'ai besoin de spécifiquement avoir du long range, je prends ma 70-200. Mais là, je suis en train de checker pour avoir la 100-400 parce que je trouve que la 70-200 m'offre pas assez de range. Genre, tant qu'à avoir une lens de long range, je vais me prendre une 100-400.
Ça t'a pas tenté de t'acheter un téléconverter?
Le téléconverter chez Sony, il marche pas sur la F4. J'ai la 70-200 F4, puis il marche juste sur la 2.8. Okay. J'ai réfléchi à acheter la 70-200 2.8 puis rajouter le téléconverter. Sauf que la 70-200 2.8 chez Sony est aussi lourde que la 100-400, même plus. Fait que je me suis dit, rendu là, je vais juste prendre la 100-400 qui m'offre déjà le range que je veux sans avoir le converter. J'utilise jamais le range de 70 à 100 anyways. Je trouve que c'est...
Ouais.
Tu sais, tant qu'à prendre une longue lens. Sinon, je vais prendre ma 85mm là, si je veux aller autour de 110 puis je vais reculer un peu. Mais tu sais... Ouais. Fait que j'aime mieux avoir ma 100-400, pas de téléconverter parce que ça enlève un petit peu de qualité nécessairement. Puis je suis pas sûr que l'autofocus, ça va être aussi efficace avec un téléconverter dessus. Puis moi, nécessairement, l'autofocus, c'est comme un must là, en vidéo. Fait que avoir le plus de qualité possible. Puis plus de. Surtout, tu sais, je veux que ça soit le plus safe possible pour que mes shots soient bonnes. Puis que ça reste. Puis tu sais, j'ai essayé la 100-400 au Parc Omeka. Puis l'autofocus, man, je te dis, là, ça a pas de sens. Je shootais un caribou à travers les arbres. Il passait derrière des arbres, puis le focus restait dessus. J'étais mind blown à 400mm, je capotais.
Mais t'étais-tu en manuel focus ou
non, même pas? Autofocus, j'ai fait dans le fond sur la S3, tu peux cliquer sur ton sujet sur l'écran, puis il fait un tracking du subject. Mm-hmm. Fait que si c'est un humain que tu prends en vidéo, il va tracker l'œil. comme en photo, mais en vidéo, ça marche aussi sur la S. Comme sur la R4 aussi, ça fonctionne. Fait qu'il va tracker l'œil, puis il va garder le focus sur l'œil de la personne. Fait que ça, c'est facile. Mais dès que tu tombes dans un animal, là, l'ILF ne marche pas. Ou un sujet, mettons, qui va vite, puis qu'il n'a pas le temps de voir les yeux. Mais là, dans la S, tu peux appuyer sur l'écran, puis ça va tracker le sujet que tu choisis. Puis c'est ça, je l'ai essayé avec la 5400, puis c'est incroyable.
Bien
je
dis,
là, mind blown. J'étais comme, je voyais le caribou passer derrière des arbres, je me suis dit, ça va laguer, c'est sûr. Aucun lag. J'étais comme...
Mais là, toi, en vidéo avec une 100-400, ça doit être un esti de défi, là, aussitôt que tu prolonges ta portée, toi, en vidéo, ça doit shaker.
Je te dirais que le tricks à suivre,
je t'interromps, ta canne est vide.
Ouais, je sais, je vais aller chercher un autre. T'as entendu le son. je faisais mon point avant. Dans le fond, le truc à savoir là-dedans, c'est que quand tu shootes à 400 mm, c'est shooter en 120 fps. Parce qu'après ça, tu peux slow down à 20%. Fait que chaque mouvement est vraiment moins apparent. Puis dans la lentille, il y a le stabilizer. Puis dans la cam, il y a le IBIS. Fait que tout ça mis ensemble, shooter à 120 fps, stabilizer, IBIS, les shots sont stables au bout. Là. C'est vraiment nice. C'est sûr que c'est un tripod. Way better. Là. Tu veux dire, rendu là, c'est un fluid head tripod pour les vidéos. C'est juste que moi, je traîne pas mon fluid head tripod.
Ouais, mais non, c'est ça. On part qu'Omega dans l'auto, c'est un peu plus compliqué.
Exact. Fait que tu sais, je te dirais qu'avec la 100-400, je m'appuyais comme sur le bord de la vitre. Avec
ma main. Sur le bord de la fenêtre, ouais.
Exact. Fait que tu sais, je mettais un troisième point de contact avec ma main sur le bord de la fenêtre. Puis avec tout ça ensemble, 120 fps. Puis tu sais, je peux faire du HD 240 aussi, sauf que là, ça devient extrêmement slow. Là. Fait que tu sais, les shots sont longs. Fait que 4K 120. 4K 120 fps avec la A7S 3, c'est malade. Là. Le fait qu'il offre du 4K 120, c'est comme... Ça se pensait même pas il y a deux ans. Là. Puis c'est ça, avec le IBIS et le Inland Stabilizer, c'est juste débile. Puis ça aussi, c'est pour la photo, là, pour le wildlife. Là. Le fait que tu aies ton IBIS in-camera plus ta lens stabilisée, c'est débile. Je veux dire, tu peux shooter à 1 sur... Mettons qu'il fait pas, il fait un peu noir, tu peux shooter à 1 sur 100, 1 sur 160. Puis encore là, c'est pas si pire. Là. Tu sais, c'est... Tout ça ensemble fait que ça réduit vraiment le shake d'un shot. Là.
Oh, ouais. Ben, écoute, moi, c'est sûr que ça va être un must. Là, parce que, évidemment, en faisant du landscape, il y a des certaines soirées que je vais partir et je vais aller faire du Milky Way. Fait que, en ayant ça, ben c'est déjà ça. Ça aide. Là.
Mm-hmm. Puis, tu sais, j'ai vu du monde faire des shots de Milky Way handheld avec la S3. Handheld.
Oh shit.
ça se fait.
Quand même, faut le faire pareil. Là.
C'est complètement débile.
C'est quoi? Tu peux pas évidemment être à 3 secondes.
Le ISO, il se monte énormément à cette cam-là. Le ISO, c'est un peu ridicule même, je te dirais.
Ben, je sais pas si t'as vu la vidéo de, sans doute, là, de Ronan Oster qui va faire le Moonwalker.
Ouais, je l'ai vu.
c'est quand ils ont sorti la caméra en réalité. Là, c'était ça, la vidéo promo pas mal. Là. Le dude était genre à ISO, je sais pas, là, 1000 milliards, tu sais.
Ben, pour vrai, là, usable, mettons, en vidéo, je connais beaucoup plus les specs vidéo, mais le usable ISO en vidéo, c'est quasiment jusqu'à 100 000 avant qu'on voit du noise dedans. Là. Fait que,
quand même.
Tu sais, quand tu dis avant le usable ISO, à 12 800 sur ma A7 III, après ça, c'était plus utilisable. Là. C'est comme, arrête là, c'est terminé. Là. Sauf que le A7S III, il y a un dual gain channel qu'on appelle. Fait que, aussitôt que tu arrives à 12 800 ISO en S-Log ou à 2000 ISO dans un autre profile normal, mettons, mais en S-Log, d'où ce que ça t'offre le plus gros dynamic range, dès que tu arrives à 12 800 ISO, le deuxième gain kick in, puis il n'y a plus de noise automatiquement. C'est comme sur une caméra de cinéma, justement. Où ce que là, à 12 800 ISO, tu arrives sur un autre channel de gain, puis ça revient comme si tu étais à 640. Tout, ça revient clean. Puis après ça, tu continues à monter jusqu'à 51 200, que là, tu commences à revoir un petit peu de noise dedans. Mais j'ai vu des shots denoisés à quasiment 400 000 ISO qui étaient utilisables. J'ai pas encore essayé jusque-là, mais j'ai vu dans des groupes du monde denoiser des shots à 400 000 ISO puis que ça lookait quand même bien. Fait que tu sais, quand on dit que le 12 mégapixels puis cette cam-là, c'est comme la low light king, c'est vrai, là, ça a comme pas de bon sens. Là.
Ouais, non, c'est ça. J'ai assez entendu parler aussi, là, tu sais... même chez Nikon, je suis les ambassadeurs Sony, là, puis je les vois aller avec leurs produits beaucoup trop nice pour la ligue. Mais fait que, non, j'ai vu que l'A7S 3, c'était quelque chose de...
Faut donner à Sony que pour quelqu'un qui veut être dans le train d'avoir les meilleurs specs avant tout le monde, c'est comme Sony qui ont la meilleure approche. Selon moi, là, tu sais, mettons, Canon, ils ont sorti la R5 avec le genre le 8K. Là. Ouais. Mais je trouve que c'est un gros PR strategy de dire, regarde, on était comme derrière un peu avec les mirrorless. On va sortir une caméra qui tue tout puis qui fait du 8K comme ça n'a jamais été fait. Fait que ça va faire un gros
mais qui brûle.
Gros coup de PR incroyable. Tout le monde voulait changer. Tout le monde qui était dans le groupe Sony voulait switcher à du Canon direct quand ça a été annoncé. Puis moi, j'ai été parmi les pessimistes un peu, mais qui étaient comme, attendez que la cam sorte, c'est trop beau pour être vrai. Là. Il y a quelque chose qui ne marchera pas là-dedans. Puis Canon, ils ont comme l'habitude de sortir des caméras débiles, mais qui a tout le temps un méga letdown dedans. Là. Ouais. Fait que je me suis dit, regarde, s'ils restent sincères qu'ils font d'habitude, s'ils font ce qu'ils font d'habitude, ils vont avoir un letdown dans la cam. Puis évidemment, comme quand ça sortit, c'était comme la caméra overheat en malade mental.
C'est ça.
Puis que c'est pas utilisable pour aucun corpo parce que dès que tu dépasses 25 minutes de tournage avec la cam en 8K, ça prend 15 minutes avant que tu puisses la réouvrir, ce qui est complètement stupide. Ça prend 15 minutes de cooldown avant que tu puisses refilmer 3 minutes de 8K ou un affaire de même. Il y a un chart sur Internet. Là. Puis tu sais, ouais. Je filme 20 minutes de 8K, faut que je ferme la cam pendant 15-20 minutes pour avoir 3 minutes, mais voyons donc, je veux dire, c'est complètement stupide. Tu sais, ça n'a pas rapport, là, tant qu'à ça.
Ben non.
Fait qu'il y a ce gros là-dedans-là qui est arrivé. Puis là, quand Sony ont sorti là, cette S3, qui ont dit non, regarde, fuck le 8K, personne n'est rendu là encore. Oui, ça offre la possibilité de faire du 4K plus de qualité, mais le monde sont encore sur des écrans Full HD pour leurs cells. Puis il y a où le major consumption, c'est sur les cells. Le monde, il écoute rarement du YouTube sur leur télé 4K, tu sais, en tout cas. Je dis ça parce que moi aussi, tu sais, principalement, je regarde tout mon contenu sur mon cell. Fait que c'est ça. Fait qu'ils ont dit, regarde, on va faire une approche. À place, on va faire une approche puisqu'on va donner du 4K, mais avec une cam qui overheat pas. On va mettre du 4K qui est du 10-bit 422 qui est genre incroyable. Puis on va donner du 120 fps, puis ça overheat pas. Tu sais, la caméra est bien faite, elle est bonne pour toutes les. Tu l'amènes, peu importe ce que tu l'amènes, elle fonctionne. Que tu ailles dans un corpo qui dure 3 heures, elle fonctionne. Il n'y a pas de record limit. Puis sky's the limit, là. Puis elle fonctionne bien. Fait que c'est ça l'important, je trouve. Tandis que. Fait que c'est pour ça que je suis quelqu'un qui aime ça avoir les derniers specs. Canon sont bons là-dedans. Mais Sony, je trouve qu'ils font vraiment des bonnes cams qui fonctionnent. Puis. Fouille-moi, on dirait qu'il n'y a pas de letdown. Il y a rarement des letdowns chez Sony, on dirait. Ils t'offrent.
Ouais,
ils offrent souvent aux consumers ce qu'ils veulent.
Ils sont plus légers, disons. Là.
Ouais.
T'as pas un problème de performance comme je filme 20 minutes puis t'es mort pendant un autre 20 minutes.
Il y aura pas les gros jumps de comme Canon fait, les grosses avancées comme Canon fait, mais il va y avoir des avancées majeures mais qui fonctionnent. Selon moi, c'est ça l'avantage. C'est ça.
De toute façon, la 7.4 va venir tout tuer ça. Là.
Ben, tu sais, s'ils sont. Probablement que la 7.4, en tout cas, selon moi. Le gros focus, ça va être comme. Tu sais, ça va rester le même sensor de 24 mégapixels, probablement. Le gros main focus, ça va être qu'il va amener sûrement le 4K 60 10 bits. Puis peut-être le 4K 120, mais plus bas, genre à 8 bits. Mais tu sais, le fait que tu ailles comme une caméra qui va t'offrir le fait de faire la possibilité de faire du 4K en slow-mo, peut-être pas à 120 fps, mais à 60, d'avoir des meilleures couleurs comme le 10 bits. Ça va juste être un game changer pour une entry-level camera. Ça va être ridicule. T'sais, même la Canon est loin de faire ça. La R, elle fait des super belles vidéos, mais c'est pas du 10-bit 422. C'est pas encore rendu là. Fait d'avoir une entry-level camera qui va permettre ça, ça va être malade. Là.
Ouais, absolument. Je reviens avec ma caméra qui fait des photos, tu sais, le chose, l'image qui reste pareille.
Oui, oui, ok, qui bouge pas, là. Ouais, l'affaire qui bouge pas, ok.
Ouais, ça, l'affaire qui bouge pas.
T'as l'air d'oublier que toi, tu prends des images qui bougent pas. Okay. Va me chercher une bière pendant que t'expliques ça, là, c'est
ouais, vas-y. Écoute, c'est ça, moi, je struggle présentement. Tu sais, j'ai beau avoir une 24-70, j'ai une 20mm, j'ai une 50. Va falloir que je choisisse aussi une lens à un moment donné qui va me rejoindre qu'est-ce que je fais. Fait que c'est sûr que je pensais à prendre l'équivalent soit une 24-70 2.8, mais là j'ai vu que je pourrais prendre une 16-35 puis qui pourrait me donner le même reach avec la 7R4 que ma 24-70 avec mon Z7 parce qu'il y aurait un fameux bouton qui me permet de cropper à 1.5 de ma distance, fait que ça pourrait me sauver les meubles. Ça.
Ouais, fait que dans le fond, l'avantage des mirrorless, c'est qu'il y a un crop sensor mode qu'on appelle. Fait que quand on parlait tantôt des petites caméras qui sont les APS-C, qui sont des crop sensors, les lens crop sensors peuvent fonctionner sur un full frame, sauf que la caméra, elle doit zoomer 1,6 fois dans son sensor. Mais la vérité, c'est qu'en mettant une lens full frame sur le body full frame, on a encore la possibilité manuellement d'activer ça avec juste un bouton qu'on clique, puis ça crop in 1,6 fois dans l'image. Fait que dans le fond, notre lens, elle devient une size 50. Puis avec le 61 mégapixels de la R, quand ça crop, ça tombe genre à 42 mégapixels, ce qui est comme complètement ridicule.
Assez c'est déjà... convenable, disons ça.
C'est très, 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 très convenable. Même que, tu sais, moi j'ai 12 mégapixels, puis c'est en masse pour les réseaux sociaux, selon moi.
Ah ben
moi.
Oui, c'est sûr.
Puis c'est assez pour faire des prints comme medium, je dirais, là, small medium. Puis le fait d'avoir comme 42 mégapixels crop, c'est en masse, là. C'est beaucoup trop, je dirais même. Fait que,
ouais, non, c'est ça.
Tu sais, toutes les lenses deviennent comme des lenses beaucoup plus longues, comme la 70-200 devient une 120-300 quelque, ce qui est comme, OK, c'est fou.
Ouais, ouais. Il y a une chose qu'il faut mettre au clair, là. Les mégapixels, là, c'est beau, là. Mais tu sais, moi, je recherche ça parce que c'est une affaire spécifique. C'est que, un, je crop dans mes photos quand même régulièrement. Puis deux, je fais beaucoup, beaucoup d'impressions. Mais on s'entend qu'une 12 mégapixels, tu sais, il y a des gens qui regardent ça de haut, sont comme « Ah, 12 mégapixels, c'est moins nice. » Mais attends un peu, là, tu peux quand même sortir un 8,5 par 11 de photo qui va être de la même qualité qu'un 60 mégapixels, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas parce que t'as moins de mégapixels que ta photo va être plus LED. Ça dépend qu'est-ce que t'en fais avec. Si tu veux faire des impressions gros comme ton mur de salon, ben là, c'est sûr que tu perds un peu de résolution. Mais si c'est pour des réseaux sociaux, là, man,
garde le ton plus gros avantage ça, d'avoir un 61 mégapixels. Le plus gros avantage d'un 61 mégapixels, excusez, c'est tout le monde a tendance à dire genre impression grand format, mais le plus gros avantage, c'est de cropper. C'est ça que
ben oui.
C'est le
cropping. Oh oui, c'est ça. Le nerf de la guerre, c'est vraiment ça. Là.
Ouais, c'est ça.
Comme je te dis, oui impression. Mais encore là, quand tu fais de l'impression à 61 mégapixels, c'est parce que ta photo, au départ, tu l'as vraiment bien cadré. Là. Mm-hmm. Parce que je connais pas grand monde qui rentre dans Lightroom, dans Photoshop, puis qui garde leur photo as-is.
Puis je veux pas dire n'importe quoi, mais la A7R4, je vais aller voir rapidement, là, mais elle a une option de pixel binning qu'on appelle. Dans le fond, le pixel binning, ce que ça fait, c'est que si c'est sur un tripod, puis que tu fais une shot de landscape, par exemple, tu laisses la caméra faire son pixel binning, tu peux avoir une photo de 240 mégapixels.
Mais non!
Ouais, je niaise pas. Fait que dans le fond, le pixel binning, comment ça fonctionne, c'est que ça prend une image, ça tasse les pixels d'un côté, ça reprend une image, ça tasse les pixels vers le bas, je pense, ça reprend une image, ça tasse les pixels vers le bas, ça reprend une image. Fait que c'est comme... c'est complètement ridicule. Ben fait que voyons. Tu peux avoir un landscape ou une photo, justement, tripod de 240 mégapixels sur un sujet qui bouge pas, évidemment. Là.
Permets-moi de déposer mon micro, je m'en vais acheter la caméra de suite.
Fait que c'est quelque chose que le monde ne sait pas, mais c'est pour ça que la R est vraiment axée sur la résolution. C'est qu'en plus, il y a ça dedans que ça a juste pas de bon sens. Là. 240 mégapixels,
tu m'apprends ça, j'ai lu bien les trucs, mais j'avais pas lu ça.
Je suis sûr que t'importes ça dans Lightroom, ça lag. Là. Genre, ça doit laguer pendant une minute. Importer l'image doit laguer pendant une minute. Là.
Ouais, non, c'est ça.
Ça doit être ridicule. Là. Mais ouais, tu revois ça, là, c'est le pixel binning de la R4. Puis je pense que c'est la seule qu'il a avec la R3, si je ne m'abuse. Je te dirais que j'ai rarement regardé ça parce que je suis pas un gros utilisateur de pixel binning. Mais l'option est là, c'est lancé. Pour toi, faire des landscapes, tu l'essayeras, tu m'enverras une image 240 mégapixels, ouais. Que je vois de quoi ça a l'air. Ça doit être ridicule. Ouais, on s'entend qu'à 240 mégapixels, tu prends une maison au loin, je suis sûr que tu peux zoomer puis voir quelqu'un se brosser les dents dans la fenêtre.
ouais, non, c'est ça, sans doute. Mais aussi, je reviens aux lentilles, là. À cette heure que ma 24-70 s'est résolue, je pense que je vais prendre la 16-35 avec l'option de pouvoir cropper parce qu'à, comme on disait, à 45 mégapixels, ça reste très, très, très raisonnable. Faudrait que je me pogne une prime pour faire du beau portrait. Tu irais-tu plus vers une 50 ou une 85? Pourquoi?
Indoor ou outdoor? La plupart du temps.
Moi, je suis vraiment... Mettons, je te dirais 90, sinon 95% extérieur. Je ne possède pas de lumière pour faire du indoor et je n'en veux pas.
Je dirais que, sérieux, entre la 50 et la 85, la différence, je pense, c'est quelqu'un qui aime ça, avoir plus de décor dans la shot, j'irais vers une 50. Fait que genre un travel photographer. Pas mal, je te dirais, travel photography, c'est le meilleur exemple parce que souvent, tu vas prendre un sujet, mais tu veux avoir le derrière aussi. Une 85, il y a trop de compression. Pour faire ça, faut vraiment que tu recules loin pour avoir ça. Fait que si tu veux un portrait waist up, mettons, puis que tu veux du décor aussi, la 50, ça va être pas mal mieux. Même, je dirais 35, ça va être comme le mieux là-dedans. Puis 85, je dirais que c'est vraiment pour des portraits, la plupart du temps, shoulder up. Shoulder up ou waist up, mais que tu vois pas le derrière. Parce que même si tu t'ouvres ton aperture, même si tu mets ça à f7.1 pour voir du décor, 85 mm, c'est tellement tight que tu verras pas tant que ça du décor. Ouais. Tu vas voir un petit peu des lumières, peut-être une porte, si mettons t'es devant une maison, tu vas voir peut-être un petit bout de la fenêtre, mais pas plus. T'sais. Fait que 50, je dirais que c'est vraiment pour les shots spécifiques, voir plus de décor, mais garder un aspect plus portrait. Puis 85, je dirais que c'est full on portrait. Genre, tu focuses vraiment sur la personne. Puis ça offre, tu sais, c'est sûr que pour le monde qui veut un méga shallow depth of field, tu sais, un gros flou en arrière, puis un bokeh incroyable, ben la 85 est mieux, là, c'est évident, tu sais, il y a de la compression.
C'est du f1.4 ou 1.8?
Chez Sony, moi, j'ai la 1.8 personnellement, parce qu'il y a l'option d'aller vers le 1.4 qui est comme la GM. Mais si on regarde des comparatifs, il n'y a pas une différence de 2000$ là, dans le 0.4 que tu gagnes, là, sérieusement. Puis, excusez-moi.
ça c'était beau.
Ça c'est la bière.
Hey, non, mais finis ton point, après ça j'aurai une question pour toi. Tu m'as fait popper de quelque chose là, fait que,
c'est ça, fait que finis rapidement, mettons le 0.4 de différence, il est pas assez là, puis le sharpness entre la 1.8 et la 1.4 il est identique là. Puis ça prend vraiment quelqu'un qui zoom comme qui pixel peep là, vraiment loin dans l'image pour voir une différence, mais sinon absolument aucune différence. 1.8, 1.4, c'est une des rares lenses que aller dans du GM, ça change absolument rien pour la différence de prix. Puis c'est ça.
Ok, ma question est assez simple. En magasinant, entre guillemets, un peu d'avance, mes lenses, j'ai vu du G puis du GM.
Mm-hmm.
Quoi la différence?
Le G, c'est le semi-pro line-up. Donc... ou genre enthusiast lineup. Donc, c'est souvent les lenses qui vont être... Dans le zoom, ça va être du F4. Puis dans les primes, ça va être du 1.8 la plupart du temps. Fait que je prends par exemple la Sony 20 mm 1.8, ben c'est une G. La 70-200 F4, c'est une G. Sinon, dans le G, il n'y a pas énormément de lens G. C'est ça le pire, il n'y en a pas full. La plupart, c'est des GM ou des FE. La FE, c'est les entry level. Fait que le Sony FE, comme la 85 mm 1.8, c'est pas une G, c'est une FE. C'est comme une coche en dessous. Sinon, les G Master, ben là, ça va être les lens pro. Donc, souvent les zooms, ça va être les zooms 2.8. Ou les primes, ça va être les 1.4, 1.2 un jour. Là. Parce que Sony n'offre pas encore de lens 1.2 dans leur GM. Ce qui est un peu ridicule. Sigma va l'offrir. Fait que si jamais le 1.2, c'est un must. Sigma, ils ont des lens 1.2. Il y a beaucoup de third-party offers aussi, là, justement. Sigma s'est mis à sortir énormément de lens imant, là, vu la montée en popularité. Fait qu'il y a des zoom lens comme la 24-70-2.8 qui est comme 1500 au lieu de 3500 pour la GM. Fait qu'il y a des offres réellement intéressantes là, dans le third-party. Les primes, c'est là que je trouve que c'est le plus intéressant, justement, parce qu'on va avoir, mettons, du 1.2 chez Sigma, dans la 35 mm 1.2. Sinon, tu sais, la 14 mm 1.4, je pense. Tu sais, c'est débile. Là. Ils ont vraiment des lenses que Sony n'ont pas encore.
Mais ça, c'est le best pour faire de l'astro. Là.
Je te dirais que même que la 24 mm 1.4, la GM, j'ai eu des méchants bons commentaires. Là. Genre, elle est faite pour faire de l'astro. Il y a quelque chose de spécial dans la lens, puis je ne veux pas rentrer en détail là-dedans, je ne sais pas c'est quoi. Mais ça a l'air qu'il y a quelque chose de spécial, un coding spécial dans la lens qui est fait pour faire de l'astro. Puis les shots que j'ai vus sortir de cette lens-là sont complètement débiles. Puis genre, c'est la prochaine lens que je vais acheter. Là. Parce que 24 mm 1.4, je dis, c'est la lens la plus praise chez Sony en ce moment. Il n'y a rien d'autre qui a été aussi praise que la 24 mm 1.4 sur tous les forums, sur toutes les reviews que j'ai vues. La 24 mm 1.4, c'est la go-to lens que tout le monde met sur la caméra de base. Quand t'es je te dis, là, genre, ça a l'air niaiseux, t'es comme 24 mm 1.4. Je veux dire, qu'est-ce que je fais avec ça?
C'est wide, mais en même temps, pas tant
c'est
wide.
C'est wide, mais pas tant. Puis c'est fait pour faire justement des wide portraits, faire de l'astro, faire tout ce qui est des setup shots. de vidéo, tout ce qui est wide trial photography, c'est parfait pour ça, c'est incroyable. Dès que tu veux montrer des landscapes 24 000 mètres, il n'y a pas de distorsion. Ouais. C'est juste avant d'avoir de la distorsion, tu es à 24. 24, c'est le focal parfait pour avoir des wide shots pas distorsionnés. Fait que, c'est pour ça que le monde trippe dessus. Puis sérieusement, le coding ou la glace qu'il y a là-dedans, je sais pas ce qu'ils ont fait avec, là, mais tout sort ultra, ultra, ultra sharp.
Genre, ça a pas de c'est pour ça que ça vaut quand même la peine de l'avoir en prime, même si tu as une 16-35. Parce que tu peux aller à 24 avec ta 16-35.
J'ai une 16-35, mais je veux m'acheter la 24 pareil. Parce qu'il y a certaines shots, surtout en low light, je dirais, qu'avoir 1.4, 1, c'est malade. Pour des shots spécifiques, ou est-ce que tu veux vraiment avoir un background blur, c'est important d'avoir du 1.4 parce qu'à 2.8, tu ne l'auras pas. Surtout à 24 000 mètres, c'est dur d'avoir un depth of field. Tu es tellement wide que même si tu mets ça à 2.8, tu vas voir ton background pareil. Mais 1.4, là, ça change un peu pareil. Donc, là, tu commences à avoir pas mal de flou en arrière, justement. Fait que, mais ça vaut la peine d'aller voir les reviews et d'aller voir les images qui sortent de cette lens-là. Je te dis, c'est comme... C'est next level. Là. Ça,
c'est jamais, sûr que je vais aller voir. Ouais, c'est ça, je vais aller voir. Fait que, dans le fond, bon, en résumé, on parle d'une A7R4, une 16-35mm f2.8, une 24mm f1.4. Jesus Christ, 1.4. Wow. J'ai ça sur ma 50mm, ça me fait capoter, mais en tout cas. Puis, mettons, une go-to télé zoom, ça serait, mettons, la 100-400G ou GM?
Dans le fond, dans les grosses zoom lens, il y a juste du GM qui existe. Je retire ce que j'ai dit. Il y a la 100-400 GM, il y a la 200-600 G, puis il y a la... Après ça, tu montes dans les lens qui ont comme pas de sens, là, justement, genre la 400 mm.
Ouais, c'est ça. Il y a les 600, les 400 ouais. Prime. Puis,
les Prime, là, exact.
Non, ça, j'aurais pas ça. Là, ça coûte 16 000, la lens.
Mais
ça,
pour le wildlife, je te dirais qu'il y a gros du monde. Moi, j'adore la 100-400 parce que la qualité d'image est débile. J'ai entendu des très bons commentaires sur la 200-600. Qui est une G. J'ai entendu des commentaires, c'est vraiment incroyable. Là. Genre, la lens est débile, puis elle est super sharp. Moins de lumière un peu qui rentre dedans. Là. Je pense que c'est une 5.6, 6.3, là, si je m'abuse. Puis la 100-400, c'est une 4.5, 5.6. Mais, tu sais, justement, avec le crop mode là, sur la caméra, là, selon moi, 100-400 avec du crop, là, c'est juste.
Ouais, non, c'est ça.
Mais la 100-400 est plus chère. La 100-400 est plus chère que la 200-600. Mais ça dépend de ce que tu veux. Plus de reach, j'irai vers la 200-600. Puis plus de qualité, j'irai vers la 100-400. Fait que tu sais, quelqu'un qui fait des prints, justement, je pense que la 100-400, ça peut être bon. Si tu photographies des oiseaux de ta cabane puis qui sont tout en loin, je dis pas, là. Ou quelqu'un qui veut être le plus loin possible ou faire un safari, ça peut être une bonne idée d'avoir 200-600. Mais day to day, je pense que 100-400, c'est quand même un extrêmement bon reach.
Ouais. Ah, cool. Wow, ça résume bien, j'ai pris ça en note là. Je vais te montrer mon petit papier là. Je sais comment c'est beau. Je sais pas si tu vas voir quelque chose là.
Nice!
Ça, c'est tout ce que je possède en Nikon.
Ok, nice.
Ça, c'est ce que l'équivalent Sony. Mais qu'est-ce qui. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il faudrait que j'aille en réalité? Ça serait ça ici.
Là, attends, je vais voir ta liste. Mettons, là, tu avais la 7R4 que tu voulais, la 20 mm 1.8. La 50 mm.
C'est l'équivalent à ce que j'ai, c'est ça.
OK, 50 mm 1.4. Pour la 50 mm, là, OK, c'est Sigma. OK, ouais. 24-70 GM, qui est extrêmement cher. Ça, je prendrais la Sigma à la place, parce que vraiment moins cher, puis avion même. 100-400, ça, j'investirais dans la GM, justement. La 50 mm 1.4, il y a la 55 mm 1.8 de Zeiss, qui est encore meilleure, puis qui est pas chère. Mais sinon, là, c'est sûr que la Sigma n'est pas chère non plus. Là. Puis 20 mm 1.8, ben là, j'irais vraiment vers la 24 à la place. Elle est salement mieux. Là.
Bon.
Puis sinon, ouais, ça te montre un bon bill.
Ouais, non, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Écoute, faut ce qu'il faut, hein.
Mais tu sais, commencer par deux lenses, là. Je commençais par la 24-70, puis la 100-400. Tu sais, je veux dire, rendu là.
Ouais, mais t'as peu. La 24-70 ou la 16-35. Ça, ben, c'est la question qui tue, là.
Ouais, c'est ça. Ben, ça dépend vraiment ce que tu veux faire principalement. Si tu me dis, mettons, principalement, je veux faire des wide shots, des setup shots, ou justement, si tu fais gros des landscapes, tu sais, 16-35, c'est mieux, là. La 24-70, c'est comme une tout-allée. C'est un gars, je te dirais, surtout en vidéo, là. 24-70, ça offre la possibilité de vraiment faire des tight shots, puis des wide shots, sans changer de lens. Tu sais, parce que 50, des fois, c'est pas assez tight encore. Là. Il faut faire vraiment des très, très, très tight shots. 70, ouais, c'est bien pour ça. Je te dirais que la go-to lens en vidéo, c'est la 16-35. Mais on dirait que la go-to lens en photo, c'est plus la 24-70.
Ouais.
C'est mon impression aussi. Que j'ai, là. C'est l'impression que j'ai, moi. Vidéo 16-35.
Mon
fil
aussi, check. Dans le Nikon, ouais. Là, c'est sensiblement pareil, mais on a... comme si on était une gang à part. Il y a une 20... pas une 24. Une 14-24 ouais, au lieu de la 16-35.
Il l'a aussi chez après Sony.
Ah oui, OK, bon, mais
ben, il y a une
12-24. Les gens vont vers ça, là.
Il y a une 12-24 chez Sony, qui est une GM, qui est sortie il y a vraiment pas longtemps. La 12-24, en fait, c'est que pour la vidéo, pour moi, elle est vraiment pas adaptée parce que le front element, il est gigantesque, puis tu peux pas mettre de ND devant. Fait que ça, c'est un gros problème, à moins d'avoir une caméra comme genre la FX6, que ça, comme ça résolue ce problème-là.
Ouais, c'est ça.
Mais Sony n'ont pas d'adapteur avec des ND à l'intérieur comme Canon va avoir à un moment donné, qui est jamais encore sorti, je pense, depuis qu'ils ont annoncé l'air. Ouais. Qu'il y a des ND à l'intérieur, mais c'est ça. Le front element, c'est tellement une grosse boule en avant que tu peux rien mettre sauf, mettons, un matbox avec des fils carrés, là.
Mm-hmm.
Fait que c'est pas super pratique pour la vidéo la 12-24, mais pour la photo c'est incroyable. C'est pour l'astro,
ouais, justement. Ouais, c'est ça. Pour en avoir essayé une 14-24, là, écoute, je suis capoté bien raide. Là.
Mm-hmm.
C'est vraiment, comment je peux dire, un autre monde. Là, mettons, des fois je mettais ma 20, pas juste pour faire de l'astro, mais mettons un landscape bien basic là, avec un genre de foreground en plante un peu, puis mm-hmm. avec une montagne au loin. Puis c'était vraiment beau, mais avoir en bas de 20, c'est vraiment, ça donne une autre perspective vraiment chère.
Parce qu'à partir de 16, à partir de 20, quand tu tombes à 16, la différence est comme monumentale. Mais à partir exact. De 16, chaque millimètre fait comme une différence complètement ridicule. Quand tu tombes de 16 à 15, tu fais comme wow. Quand tu tombes de 15 à 14, tu fais comme wow. Puis là, si tu tombes à 12, je te dis, ça n'a comme plus de bon sens. Là. C'est... Ouais, tu vois ouais. Tout, là. On dirait que c'est comme quasiment 180 degrés de field of view. Là.
C'est ça. Tu sais, ça me rappelle les shots de Milky Way qu'on les voit vraiment en arc là, de mm-hmm. ciel de gauche à droite. Là.
Ça, c'est du 12 mm.
C'est prêt avec ça. C'est ça. Pas chaud. Ouais. Pas
chaud. Oh, oui, évidemment. Là. C'est 16 mm.
Mais même une 20, c'est pas assez. Là.
Non. Si tu veux faire des shots d'astro extrêmement wide, puis avoir cet effet-là un peu de grandeur monumentale, ça prend une 12 ou une 14. 16, tu peux t'en sortir, je trouve. Là. Mais il manque tout le temps ce petit reach-là pour spécifiquement ce genre de shot-là.
Ouais,
là, que tu fais une fois par année. Ça, je comprends. Ouais. Ça, c'est rendu, on est dans quelque chose de très, très, très spécifique. Là. Mais tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, je trouve que la 24-70, c'est le best pour commencer. En photo, j'ai l'impression que c'est ça qui est plus praise parce que tu peux jamais changer ta lens. Puis t'as un peu toutes les focal lengths. Sans distorsion. Puis la 16-35...
On t'excuse.
Ouais, on t'excuse. J'ai l'impression que la 16-35, elle, c'est plus vidéo-wise la meilleure à avoir. Parce qu'en vidéo, il y a souvent des setup shots à 16 mm à faire. Tu sais, quand je fais du corpo, je vais souvent entrer dans des buildings. Ben, l'entrée dans un building à 16 mm, c'est grandiose. L'entrée dans un building à 24 mm, ça va être petit. Mm. Fait que tu sais, c'est souvent ça qui arrive. Sinon, tu sais, tout ce qui est setup shot, justement, montré wide 16 mm, c'est incroyable. 35 mm, je peux faire du B-roll quand même, pas pire. Je peux être pas trop proche d'une personne, puis à 35 mm, je peux avoir un B-roll quand même bien. Là, avec ma 7S 3, je peux plus cropper, fait que nécessairement, je suis quand même un peu. C'est avant, je peux aller à 50 mm, puis c'était mieux un peu. Là. Sauf que là, à 35, ça a un certain maximum que je peux atteindre. Là. Mais après 35 mm, moi, personnellement, j'irai vers des primes entre les deux, avant d'arriver à 70. Ou à 100, puis après ça, j'irai vers une 100-400.
Ouais, mais tu vois, c'est ça. À te jaser, je me dis... On dirait que je pense plus à prendre une 16-35 puis prendre une prime, comme soit une 50 ou une 85 pour,
c'est
mettons,
ce que je ferais,
j'ai
moi,
des portraits à faire. Puis après ça, soit la 70-200 ou bien la 100-400, dépendamment de ce que je vais décider de faire avec. Là.
C'est ça, parce que moi, mes besoins, mon 16-35 couvre justement 70-80% de mes besoins. Puis, dans un shoot, mettons, de 3-4 heures, je vais utiliser ma 16-35 pendant 2h30 de temps. Puis, je vais utiliser ma 85 pendant peut-être 30 minutes parce que j'avais besoin d'avoir de quoi de plus tard.
Ouais.
Ou, si j'aurais une 50 ou une...
Si j'avais, excusez-moi.
Ouais, évidemment. Si j'avais une 50 ou n'importe quoi qui est au 35, je prendrais une prime jusqu'à 100 ou ce que là, je prendrais une zoom. Parce que tant qu'à avoir du B-roll, aussi bien l'avoir... plus grosse qualité possible. Tu sais, je me dis, je vais faire cette shot de B-roll-là, de ce produit-là, ben je vais mettre ma 85, puis je vais avoir le meilleur B-roll possible de ce produit-là.
Exact.
Mais j'irai pas avec ma 24-70 pour avoir de quoi de correct de, comme B-roll. Ouais. Tu sais, je vais prendre vraiment une prime, puis si je veux revenir à des shots plus normales ou setup ou genre voir ce qui se passe dans l'endroit ou quoi que ce soit de genre-là, je vais prendre ma 16-35. Mm-hmm.
Ouais. Ah, ben écoute, moi je suis aligné là. Faut juste que je vende mon stock. Là. J'ai mis ça sur Kijiji. Puis.
L'invitation est lancée. Pour n'importe qui entend ça, une Z7 à vendre avec.
Ouais, non, c'est ça. C'est pas super invitant là, mais.
Ouais, mais il y en a.
C'est pas de mauvaise caméra là.
Ouais, exact. Ben tu sais, c'est ça qui arrive. C'est Nikon, c'est vraiment pas des mauvaises caméras qui ont sorti. Même je dirais que c'est des super bonnes caméras. Puis quand tu fais des reviews, comme je checkais justement Fronos Follow faire un review un matin, de la Z7 II versus la R6 puis la R7 III, tu sais, la Z7 II a gagné énormément de points. Mais pour une caméra de ce prix-là, elle n'était pas tant que ça en avant de la R6 puis de la R7 III. Puis je me disais, ouais. Ouch! Tu sais, ça fait mal pour n'importe qui a une Z7 II en ce moment qui fait,
ouais.
OK, j'ai même pas tant de j'ai pas tant d'avantages de plus qu'une R7 III. À part, mettons, le mégapixel, t'es comme « ouch ». Je veux dire, j'ai dépensé beaucoup pour ça. Le line-up de lens est extrêmement mieux chez Canon puis Sony. Pis c'est juste Canon qui ont sorti comme... Ils ont sorti une caméra, ils ont sorti genre la R. Puis en même temps, ils ont sorti une panoplie de lens. Là. Genre, ils ont sorti...
Bon, on dirait qu'ils ont pensé à leur affaire. Là.
Ils ont sorti un line-up complet en genre un an et demi, deux ans. Là. Tout est tout quasiment est réglé là-dedans. Là. La 70-200 est minuscule. Je pense que la 5-400 est annoncée pour dans pas long. Ils ont une panoplie de lens, des 1.2, des prime 1.2 qui sont complètement débiles. Une 28-75 f2. Tu sais, je veux dire, des affaires que t'es comme aïe, je veux dire, ça a comme pas de bon sens. Puis Nikon sont comment? On a sorti des super bons body, mais on a rien à proposer en lens.
Ouais, là, c'est ça.
Acheter
c'est
du
ça.
Nikon, là, t'es comme ok. Ouais. Pas super évident.
Ouais. Non, fait que c'est ça. Là. C'est un peu tout ça. Là.
Fait que tu me diras quand tu vas faire le move, puis d'après moi, tu vas être content, Chris.
Ouais, ben c'est ça. J'espère que je vais passer un joyeux Noël. Ouais. Que le tournoi va être gentil avec moi.
Que tu vas prendre des photos de famille avec ton nouveau 7R4.
Hey, c'est drôle que tu dises ça, parce que mon premier appareil photo que j'ai acheté, mon tout premier, là, c'était un Nikon D3100. Puis j'étais donc bien content d'avoir acheté ça parce que je venais d'avoir mon petit bébé chien que j'avais, que j'ai encore en fait. Puis c'est pour ça, dans le fond, que j'ai acheté un appareil photo. Puis là, ben, tout le monde est comme, ah, prends une photo de famille, prends une photo de famille, t'as un appareil photo toi, tu sais. Je suis comme, ouais, mais je sais pas comment m'en servir, tu sais. Puis là, tu sais, dans une maison, j'installe mon trépied, puis la seule lens portrait que j'avais, c'est une 50 mm.
Ouh.
Mais tu sais, ça prend une distance, ça prend pas nécessairement une grande distance pour faire un portrait avec une 50 mm, mais quand t'as genre à peu près 20 membres de famille,
impossible.
Faut que tu sois large, impossible. Là. Puis là, ben tu sais, ambiance des fêtes, lumière tamisée, blablabla, hey man, je sais même pas comment me servir de mon appareil photo. Puis il fallait que je fasse une shot long exposure quasiment. Tu pourrais avoir ta lumière, là, c'était complètement ridicule.
C'est fou. Puis je veux dire, mettons, en lien un peu avec ça, pour n'importe qui s'achète sa première caméra live, puis qui pense à justement s'acheter son premier body de caméra, qui est son sel, il veut aller plus haut que son sel, arrêtez d'acheter des entry body DSLR, arrêtez maintenant d'acheter ça. Il fut un temps où les mirrorless coûtaient trop cher, puis que les DSLR étaient bon marché. Pour n'importe qui commençait, mais là, c'est plus le cas. Arrêtez d'acheter des Nikon D3100, D3400. Exact. Arrêtez d'acheter des Canon T5i. Ça vaut plus la peine. Ça coûte aussi cher qu'un entry-level de mirrorless. Vous n'avez aucun avantage. Vous achetez des vieilles lenses. Vous investissez dans un vieux système. C'est complètement inutile. Tout le monde qui me demande c'est quoi la première caméra que je devrais acheter. Est-ce que je devrais acheter une Canon T5i? Je leur dis « Urk, non », puis je vomis. Arrêtez, sérieusement, arrêtez. Genre, là, je vais le dire ici, là, si le plus de monde possible peut entendre ça, je peux poser la question, achetez pas ça. Achetez, tu sais, je veux dire, la Sony en 6100 coûte 1000$. La Canon EOS M50 coûte, je sais pas, 700$. Puis ils viennent avec des kit lens, tu sais, je veux dire, à ce prix-là, t'as une kit lens avec. Puis c'est des appareils mirrorless avec les nouvelles technologies d'autofocus, avec des nouvelles lentilles que tu peux mettre dessus. Ben, peut-être pas la EOS M50, juste comme à part, là, c'est un peu comme un truc de Canon qui avait leur membre stupide pour ta caméra là. Mais tu peux quand même adapter. Là. Mais mettons, je parle de la Sony A6100, que tu peux acheter des lenses full frame si tu veux les domper dessus, ça marche. tu as 1.6 de crop, mais ça marche. Tu peux investir dans du full frame glass avant d'acheter un appareil full frame. Tu pars justement du mirrorless. Puis j'ai l'impression que la plupart du monde qui achète des Canon T5i ou des Nikon 3400 vont lâcher la photo après 6 mois parce que c'est trop compliqué. Si tu achètes un mirrorless, tu vas comprendre deux fois plus rapidement comment ça fonctionne. Parce que la caméra...
Oui, c'est définitivement plus rapide, là.
Puis c'est même pour un pro, c'est mieux. Fait que pour un débutant, nécessairement, c'est sûr que c'est 100 fois mieux d'avoir ça, là. Parce que pour un pro, ça aide. Fait que pour un débutant, c'est juste... C'est un game changer.
Juste le fait que dans ton viewfinder, tu vois ta photo, puis tu regardes tes specs que t'as. Juste ça, là. Juste ce point-là, man, c'est
terminé assez d'arriver pour te faire chez switcher, vous, là. De regarder la photo que t'as pris dans ton viewfinder, puis t'étais comme, cette shot est débile. T'arrives chez vous, elle est blanche ou elle est fucking noire.
Complètement blanche.
c'est fini ce temps-là, là, parce que tu vas prendre ta photo, puis si elle est complètement blanche, ben si t'es assez intelligent pour changer tes settings, ben elle va être comme tu veux, là, tu sais. Tandis qu'avant, c'était ça, c'était comme, j'ai pris la shot, waouh, oh non, j'avais oublié que mon shutter speed était arrivé sur 50. La shot est détruite. Bon, c'est fini ça, ce temps-là. Là. Puis toutes les letdowns que tu fais, ah, si je t'ai curé, j'arrête. Là, mon iPhone, c'est plus facile à utiliser.
Mm-hmm.
Ben, c'est terminé ça. Puis justement, c'est souvent ça qui revient, c'est mon iPhone est plus facile à utiliser. Mon cell fait des meilleures photos. Ben, c'est juste ça. Pour ça. Là. C'est que le monde, ils ont des caméras de salle d'entrée de gamme, puis ils savent pas s'en servir. Puis ils n'ont pas les outils nécessaires pour s'améliorer rapidement avec ça. Puis on est dans un monde où on veut s'améliorer rapidement. Là. Si on n'a pas les.
Ouais.
Si on voit des affaires sur Instagram, du monde faire des photos, puis si on n'est pas un peu proche de ça, on est comme arc, j'arrête. Là. C'est souvent ça que le monde va
faire. C'est un peu un. C'est peut-être un peu fort, là, mais c'est un peu un leap of faith. Là. Tu te commets ou tu te commets pas. Là, essaye pas de sauver genre 500$.
Surtout sur un appareil. Sur un appareil entrée de gamme. Là.
Ouais, mais c'est parce que ça, après ça, il va rester sur ta tablette puis tu vas rien faire. Fait que tu sais, ça coûte bien plus cher de payer 1000$ puis qu'il reste sur ta tablette que de payer, mettons, 2500$ puis tu t'en sers tout le temps, là, tu sais.
Il y a un principe dans la technologie.
Va peut-être te permettre de faire des contrats ici et là, là, tu sais.
Ben oui.
Même si tu deviens pas pro, là, tu fais un shooting puis ouais, c'est ça, tu fais un petit shooting, là, tu charges, je sais pas, mais tu sais, au début, tu charges 50, 60, 70$ parce que t'es comme, ah, mon talent, nanana, ça vaut ça, tu sais, ben... Écoute, c'est correct, là, tu sais, puis tu vas en repayer un petit peu, là, plutôt que de la laisser sur la tablette, de dire c'est trop compliqué, puis fuck it. Là.
Exact. Puis il y a un principe en technologie qui s'applique sur à peu près tout dans la technologie, qui s'applique sur les télés, les cells, les ordi. Quand tu achètes quelque chose à 200, mettons, je prends en comparatif, là, je prends une caméra à 250$. La différence que tu vas avoir d'une caméra de 250 à 500, elle va être deux fois meilleure, voire trois, voire quatre fois meilleure. Après ça, de 500 jusqu'à 1000, elle va être deux fois meilleure. De 1000 à 3000, elle va être 1.5 fois meilleure. De 3000 à 10 000, elle va être 1.2 fois meilleure. C'est le retour sur investissement dans des caméras d'entrée de gamme, il est gigantesque. Si tu achètes une caméra à 1000$, elle va être complètement hallucinante versus ta caméra à 500$.
C'est
après ça que là, ça ralentit. Que là, plus tu vas payer des montants astronomiques pour un retour sur investissement qui est énormément moins.
Pour un feature spécialisé.
Exact. Pour quelque chose qui est vraiment, vraiment moins dans retour de qualité. Tu sais, je pense à ma A7 III que j'ai acheté, que j'avais ma A6000 avant. J'achète ma A7 III, c'est un monde de différence là, pour genre 1000$ de plus. Mais après ça, quand j'ai acheté ma A7S III, j'étais capable de faire des corporatifs puis des vidéos vraiment nice avec ma A7 III. Mais oui, ma A7S III m'amène de quoi de plus de qualité encore, mais ça paraît pas pour deux fois le prix. Là. Ça paraît pour peut-être 1.3 fois le prix. Fait que c'est ça qui arrive, c'est un principe qu'il y a dans tout, dans les cells, dans les ordi, tout. Tu arrives à un certain threshold à un moment donné, que là, ton investissement, il sera pas. Si tu mets deux fois le prix, il sera pas deux fois meilleur. Ça va être moins que ça. Puis ça, c'est la même affaire dans les caméras, mais là, pour amener au point que, je voulais juste dire que dans les caméras d'entrée de gamme, 250, 500, 1000. Si tu hésites dans une caméra à 500 puis à 1000, prends celle à 1000. Elle va être trois fois meilleure ou deux fois meilleure.
C'est ça.
Ça sera pas un 1.2 fois plus de qualité. Ça va être littéralement deux, trois fois mieux. C'est plus ça mon point. Là.
All right, man. Écoute, moi, je suis éclairé. Je suis prêt à partir avec ça puis je te reviens avec ça.
Ça a fait une bonne discussion. Je pense que
ouais.
ça a duré un certain moment. J'espère que le monde va avoir... rester avec nous autres pendant un bon bout. Mais c'est intéressant pour elle.
Ben, j'invite les gens à nous envoyer des commentaires, leurs réponses, s'ils ont aimé ça, pas aimé ça. Puis s'ils veulent qu'on parle des produits plus spécifiques ou moins plus at large, ben, let's go. Envoyez-nous des suggestions. Puis peut-être bien qu'on va récidiver. Qui sait?
Écrivez-nous sur Instagram. Dans le fond, moi, c'est ben, Meunier Max sur Instagram. J'imagine que le monde me suit s'il écoute ça live. Là. Mais sinon, toi, c'est sur Instagram. Ton handle, c'est quoi?
C'est Danick Lajoie, D-A-N-I-K, Lajoie.
Parfait. Fait que si jamais vous avez des questions sur Danick, pour Danick sur son changement de Nikon à Sony, parce que vous êtes en ce moment en train de faire ça...
Venez me consoler, s'il vous plaît.
Tu sais, Danick a eu des Nikon aussi DSLR, puis il a fait le switch vers du mirrorless. Fait que tu sais, si vous avez des questions là-dessus, c'est une bonne personne ressource pour ça, parce que moi, personnellement, j'ai jamais eu de DSLR de ma vie. Je m'y connais, je connais les différences, je sais comment ça fonctionne, je l'ai déjà essayé, mais j'en ai jamais eu un. Fait que des fois, quelqu'un qui change d'un DSLR et qui a des questions très spécifiques versus la mirrorless, je peux répondre de connaissances générales, mais pas de connaissances de cause. Tandis que Danick, ben je peux peut-être vous éclairer sur certains points que moi, je vais dire « achète un mirrorless, l'arrêt de niaiser. » Tandis que Danick peut peut-être être plus compréhensif sur certains points.
Ouais, c'est ça. Venez parler aux vieux sages.
Fait que je vous invite à aller voir sa page, je vous invite à lui poser des questions si jamais, puis j'espère que vous allez le flotter de questions et qu'il soit plus capable de répondre à tout le monde.
C'est bon.
Envoyez-lui plein de stock, plein d'amour. Let's go.
C'est bon. À bientôt, Max.
Moi, Dan, je te dis bye. Puis profite de ta bière. Je commence à. Je bois plus récemment. Moi. Fait qu'à chaque fois que je prends une bière ou deux, là, ça rentre. Là.
Ouais, ben écoute, je te dirais que c'est un micro, c'est un peu de même aussi. Là. C'est 6.3 celle-là. Puis à taper, elle. Pas que je. Ouais, 6.9. Fait que...
Ouais, c'est ça. T'sais, moi, c'est 4.2 puis ça rentre. Là. Fait qu'imagine, à 6.9, là, ça...
Ah, je suis de bonne humeur.
Ah, là, c'est ça. Ça fait des conversations enflammées. All right, ouais, salut. Bonne soirée.
Ciao.
Ciao.